Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en septembre 2012 et c'est le numéro 18. Bonjour à tous, le dernier numéro ayant visiblement beaucoup plu aux auditeurs, j'ai décidé de poursuivre sur cette lancée mais avec un peu moins de punch. L'équipe s'agrandit donc puisque Yannick viendra régulièrement piétiner des jeux sous vos yeux.
Bonjour à tous.
Comme l'expérience lui a bien plu, il revient en deuxième semaine avec comme objectif de placer au moins une allusion à Smallville, c'est comme.
Oui, plusieurs même.
Et c'est enfin le retour du plus bavard des chroniqueurs, Michael.
Ouais, alors pour le punch, par contre, je suis un peu vert parce que c'est quoi cette histoire? Il y en avait la dernière fois, il n'y en avait pas quand je suis venu et il n'y en a encore pas quand je suis là. C'est scandaleux. Je sais pas si je vais revenir. S'il n'y a pas de punch, je reviens.
Mais tu viens en voiture.
Ah, mais je veux pas savoir. Je viendrai en train s'il le faut. Je veux du punch, monsieur.
D'accord, on verra ça. Au sommaire aujourd'hui, nous aurons donc Deadlands Reloaded, le retour de la vengeance par Yannick. Puis je vous ferai part du contenu de Wasburg, le jeu de rôle du roman éponyme. Et enfin, Michael nous parlera de Leverage. Mais avant cela, et parce qu'il y en a que ça intéresse, voici les news. Je l'avais évoqué la dernière fois, l'excellent podcast Bazincast a fait un numéro spécial jeu de rôle et jeux de plateau avec Croc comme invité. Il y a plusieurs sujets de cette émission sur lesquels j'aimerais revenir, mais avant ça, Com, vu que je t'ai obligé à écouter cette émission, qu'est-ce
terrible.
Que tu en as pensé?
Alors, j'ai pas pris de notes parce que je suis un très mauvais élève, mais alors, et aussi il faut savoir que j'avais jamais écouté le Bazincast avant, mais ouais. C'était plutôt intéressant. Cela dit, j'aurais tendance à dire, en étant un peu mauvaise langue, que pour moi,
oui, bon,
l'intérêt de la chose tenait plus à l'invité que aux chroniqueurs eux-mêmes, quoi.
Comme nous.
Oui, bon, comme nous, voilà. C'est plus le sujet que les gens qui parlent. Bah, c'est-à-dire que Croc, même si je suis pas même rarement d'accord avec lui, c'est un mec qui sait de quoi il parle, qui parle bien. Et qui est toujours intéressant à écouter, même quand il assène ses opinions violemment, on va dire. Et c'est vrai que je sais pas, peut-être que c'est le coup justement de Croc, un petit peu légende du jeu de rôle, et en face, bon, les questions étaient pas forcément. Je dis pas que j'aurais fait mieux, hein, d'ailleurs.
Tu veux dire qu'il aurait mieux valu y avoir Morandini ou quelqu'un comme ça en face, c'est ça que tu voulais?
Morandini,
oui, tu vois,
face à Croc, ça doit taper grave.
Ah, ouais. Je pense qu'il va prendre cher Morandini.
Je pense qu'il s'en prendrait une au bout de 10 minutes.
Mais j'aimerais voir ça en tout cas.
Bah, disons que le retour sur son parcours était intéressant. Après, je sais pas, il aurait peut-être fallu être un peu plus. Enfin, un petit peu. Ah, j'allais dire agressif, mais c'est pas le mot. Mais en gros, là, c'était un peu complaisant par rapport à Croc, alors que bon, on peut
quand
même...
Ils lui ont pas donné le change. Ils l'ont vraiment laissé
ouais.
En roue libre dans ton point de vue, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Et notamment, d'ailleurs, dans les commentaires du Bazincast sur leur site, il y avait notamment une remarque par rapport à l'opinion qui donnait des jeux de rôle. Non, des jeux de société, je crois, je sais plus. Mais en gros, à un moment, Croc dit qu'il reçoit énormément de jeux, sans doute de société.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Amateurs, et qu'il en a marre, que bon, de toute façon, ils sont tous pourris, et qu'il n'en a jamais édité un seul, donc ça le fait chier, etc.
Oui,
ouais, c'est pas
j'ai
vrai,
pas,
vrai,
j'ai pas, si pas eu l'impression, pas. J'ai pas eu l'impression qu'il disait qu'il en avait marre, mais par contre, il faisait le constat qu'effectivement, sur tous ceux qu'il avait
bah,
reçus,
disons que...
il y en avait
ouais.
Aucun qui avait émergé.
Je sais pas, moi je l'ai.
C'était de l'ordre du constat plutôt.
Ouais. Bah après, même quand il fait des constats, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu violent, donc tu sais jamais si voilà. Mais bah,
surtout que c'est assez bizarre comme constatation. Il y a une époque où chez Asmodée, ils avaient fait une série de tests où ils avaient demandé à des gens de venir tester justement, playtester un certain nombre de jeux de société justement pour savoir plus facilement, peut-être avec un œil différent. Ce qu'il était possible de faire, de sortir des améliorations à apporter. Et il me semble qu'à l'époque où j'avais été, justement, on avait testé pas mal de jeux et quelques-uns sont sortis et ont eu l'air d'avoir comment dire,
l'aval.
Oui, l'aval de Croc, et ça avait l'air à peu près correct. Alors peut-être que d'ici là, moi je te parle de ça, c'était il y a 5-6 ans, mm-hmm. Peut-être qu'entre-temps, effectivement, avec la routine aidant, et puis le fait qu'ils aient pas sorti de jeu de rôle chez Asmodée, et que lui, il a pas eu forcément l'occasion ou la possibilité de travailler sur un truc comme ça.
Juste pour finir sur ce que je voulais dire, c'était assez étonnant de sa part qu'il dise ça, surtout quand tu sais que bah, lui, il a commencé exactement comme ça, c'est-à-dire en publiant...
Moi, j'ai pas du tout compris la même chose que toi, de la même façon que David. Pour moi, dans l'idée, ce qu'il disait, c'est qu'en effet, il reçoit beaucoup de jeux qui les testent tous les jours, qui testent des jeux tous les jours, mais qu'il a, le constat, c'est que de gens qui apparaissaient de nulle part, jamais aucun jeu n'avait été sorti.
Oui.
Moi, de l'expérience que j'en ai...
C'est pas qu'ils trouvaient aucun jeu, c'est-à-dire que ceux qui trouvaient qui étaient bien, c'était souvent par des gens, comme il disait, qui croisaient déjà sur les conventions...
Ou des gens aussi, des auteurs qui sont installés, mais c'est vrai qu'il dit c'était plutôt de ce point de vue-là, moi, comme ça que je l'ai compris. Alors après, voilà...
Non, mais c'est peut-être moi qui fais du mauvais esprit.
Non, mais il faudrait peut-être demander à l'intéressé ce qu'il voulait
vraiment dire. Voilà, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Inviter Croc.
Voilà. Et juste deux remarques de plus sur le podcast. Tu pouvais t'y attendre, mais j'ai littéralement bondi de ma chaise quand il parlait des jeux narratifs ou
narrativistes.
Ouais, narrativistes, parce que on n'a pas du tout la même conception de la chose. je me souviens plus qu'est-ce qu'il citait comme exemple, mais en gros,
il disait le jeu de rôle narrativiste, c'est un peu. C'est un
jeu à MJ tournant,
et
Croc disait bon, c'est de la grosse merde, à part si t'as.
Il disait c'est un peu comme faire une pirate, tu sais, t'as chacun qui fait son truc dans son coin.
Oui, oui, il a une super.
Il
a une super allégorie avec la cuisine en disant quand tu fais du jeu de rôle narrativiste, pour que ça marche vraiment, faut que t'aies 4 chefs, 4 étoiles à ta table. Et moi, je préfère faire de la cuisine pour mes amis, même si eux ils sont pas bons en cuisine, c'est pas grave tant qu'ils viennent bouffer. Bon, on peut penser ce qu'on veut du jeu de rôle narrativiste. Déjà, je
pense que c'est juste pas sa tasse de thé.
Oui, bah oui, oui.
Non, mais le résumé, c'est ça. Hein.
Mais il l'a dit.
En fait, moi, ce qui m'a plus fait bondir, c'est pas qu'il aime pas, parce que là, chacun son truc. Je comprends tout à fait que ça puisse ne pas plaire, mais c'est que la manière dont ils l'ont défini était vraiment étrange, quoi. Parce qu'il semblait dire que c'était un jeu. Enfin, je sais plus quel chroniqueur en parlait. Il disait, c'est un jeu à MJ tournant. Chacun se passe la main, machin.
Mais je crois que le problème, il vient de là. Pour moi, la définition narrativiste, si pour avoir l'avis de Croc sur un sujet. Je pense que sur un sujet qui de toute façon n'intéresse pas, je pense qu'il faut d'abord que le chroniqueur en tant que tel définisse bien clairement qu'est-ce qu'il appelle jeu de rôle narrativiste, parce que d'ailleurs la définition, il y a plein de définitions. Et si tu prends un jeu comme Fiasco d'un côté et que de l'autre tu prends n'importe quel autre jeu que tu veux narrativiste, que ce soit
Tu vois, sans vouloir anticiper, par exemple pour moi Leverage, ça fait partie des jeux qu'on peut considérer comme alors peut-être light mais narrativiste, ou alors, Smallville par exemple,
voilà. Non, mais,
ok, première allusion.
Moi personnellement, ma définition du jeu narrativiste, mais c'est la mienne, hein, c'est un jeu de rôle où il peut y avoir un MJ ou pas, où les joueurs ont un pouvoir de narration. Point à la ligne. Mmh. Et en effet, de ce point de vue-là, Leverage, c'en est un, Warhammer 3, c'en est un. Il y a des certains côtés. Alors, je sais bien que les gens vont bondir tout de suite quand je dis Warhammer 3, un jeu narratif.
Tu m'as pas vu, mais moi j'ai bondi.
Voilà, exactement. J'ai failli prendre un coup. Mais dans le principe, c'est ça. Pour moi, c'est un jeu dans lequel les joueurs ont un pouvoir de narration, ni plus ni moins.
C'est une définition qui me convient.
Ouais, enfin, un pouvoir de narration plus direct que ce qu'ils ont habituellement.
Oui.
Parce qu'ils ont toujours un pouvoir de narration à partir du moment où c'est eux qui construisent finalement.
Mais quand il est fixé dans les, entre guillemets, dans les règles.
C'est ça,
que
quand c'est écrit noir sur blanc.
Parce que après, c'est du choix du MJ.
Et aussi le fait que, comme son nom l'indique, c'est d'abord l'histoire qui importe. C'est-à-dire que tu fais pas un jeu où le but c'est, d'aller piller un donjon. Ce qui importe à ce moment-là, c'est comment tu pilles le donjon, quel effet ça fait à ton perso de gagner ou enfin d'arriver ou pas à trouver le trésor, de ce genre de truc.
Ce qui fera raccord Cobal avec la partie Fiasco qu'on a testé récemment, c'est ça.
Et alors, juste pour finir sur une note positive sur le Bazingcast, j'ai beaucoup apprécié par contre l'IRLPG que je ne recommande pas d'écouter dans un lieu public comme je l'ai fait, parce que je me suis attiré des regards très étranges quand j'étais tout seul
Ils en ont fait d'autres qui sont tout aussi marrants, genre comment dissimuler un corps ou des trucs comme ça.
Oui, c'est ce qu'il disait, que ça tournait bizarrement toujours autour des mêmes thématiques de meurtre et de
comment survivre à une invasion zombie. Elle est sympa aussi.
Voilà.
Moi j'aime beaucoup cette émission et ses intervenants. Je vais revenir sur quelques-uns des points qu'ils ont abordés. Donc outre le truc sur les jeux narratifs qui t'a défrisé, il y avait également le sujet du crowdfunding qui était abordé, qu'on a déjà abordé la dernière fois lors de l'épisode apéro. Et donc il y a Croc qui disait que ça allait faire crever les éditeurs. Donc je pense qu'il parlait surtout des jeux de plateau.
Mais alors ce qui était intéressant, c'est qu'enfin lui, son point de vue, c'était qu'il disait que ça va faire crever les éditeurs. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il pour le coup là il était pas il avait pas d'animosité envers ça.
C'est-à-dire ça serait quand même par accord par rapport à ce qu'il avait dit jadis dans Backstable par rapport à la mort de Cassius en disant bon bah c'est ouais. comme le panda quoi. Ça aurait été quand même malvenu qu'il dise exactement l'inverse.
Non mais c'est ça, c'est que il reste sur sa ligne directrice qui est en gros tu t'adaptes ou tu crèves quoi.
Exactement.
Donc, ouais, c'est ça.
Pour un fan de post-apo, ça me paraît normal.
Créateur du bitume.
Voilà, c'est complètement raccord.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'influence justement du crowdfunding que ça pourrait avoir sur les éditeurs de jeux de rôle? Déjà, là, actuellement, il y a un certain nombre d'éditeurs, type les ludopathes, qui passent pas mal de produits en précommande sur Ulule.
Bah, déjà, il y avait avant Ulule et Kickstarter dans d'autres domaines.
Ouais.
Les souscriptions, quand il y a eu les écuries d'Origeas avec Crime, il y a
oui,
eu Maléfice.
Oui, ah, oui,
ça,
oui,
ça date, il y a eu quand même des prémices. Mmh. Et je dirais que. De mon point de vue, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça a permis à des jeux de naître et d'être soutenus et au final d'avoir une véritable gamme, à d'autres jeux plus vieux comme Maléfice de pouvoir revenir.
Ouais.
C'est sûr qu'à l'époque, si Ulule avait été là, ils auraient certainement fait par Ulule. Ils l'ont fait autrement parce que ben voilà, ils sont adaptés à ce qu'il y avait à leur disposition.
En fait,
moi,
c'est vraiment complémentaire. Ça évite énormément de risques de la part des éditeurs hein, parce que la plupart des éditeurs. Surtout dans le domaine du jeu de rôle où les frais sont élevés, les retours assez faibles d'une manière générale, ça leur évite. Chaque jeu est un vrai risque pour la boîte en général sur ce genre d'éditeur. On ne parle pas d'Asmodée, mais évidemment, mais on parle de la majorité des autres éditeurs qu'on peut connaître. Passer par un Kickstarter ou un Ulule, enfin passer par un crowdfunding, ça permet de s'assurer qu'au minimum un certain nombre de gens sont intéressés, c'est-à-dire qu'ils ont mis la main à la poche suffisamment pour être intéressés par le jeu. Ça veut dire que si derrière ils sortent le jeu, ils s'assurent un certain nombre de ventes. Direct et automatique. Donc ils arrivent très facilement à l'équilibre.
Ben, voilà, c'est ça. C'est le point de base pour un éditeur qui va imprimer ses livres, c'est qu'il va regarder quel est son point mort, à quel nombre d'exemplaires ça lui coûte plus rien. C'est-à-dire il a remboursé tous ses frais fixes, et c'est quoi, tous ses frais,
ah oui, non,
le prix de revient est atteint. Et le problème avec aujourd'hui dans la problématique du jeu de rôle et dans les ventes de jeux de rôle, c'est qu'un éditeur qui est habitué à faire ses produits tels qu'il l'a décidé à les éditer, il peut se ramasser de façon catastrophique et crever tout bêtement.
Ouais.
Et le crowdfunding de ce point de vue-là a un intérêt parce que par la souscription ou par les précommandes, par ce système-là, ils peuvent se dire au moins, ok, on fixe la barre à, je sais pas, j'allais dire une bêtise, 500 exemplaires. On sait que si on a 500 précommandes, on sait qu'on a amorti tous les coûts. Donc, on crève pas en le faisant. Mmh. Et ça nous permet de pouvoir lancer l'impression. Alors que s'ils le font pas et qu'ils disent, coup de poker, allez, je dis une bêtise. Ah ouais, moi je suis éditeur et je vais lancer la nouvelle édition de Néphilim ou celle de Vampire. Allez, au hasard, parce que c'est les rumeurs qui circulent beaucoup ces derniers temps. Et ben, moi personnellement, moi je le ferai pas. Je trouve que ce serait une connerie monumentale. Pourquoi ? Parce que j'ai aucune garantie réellement que ça se vende. Pour moi, Vampire en anglais, les gens qui vont acheter Vampire, la nouvelle édition, la plupart qui devaient l'acheter en France vont acheter en anglais.
Ouais.
Que pour Néphilim 3, est-ce qu'il y a encore un public ? Oui,
4.
Peut-être, mais pour combien ?
Néphilim 4.
Oui, Néphilim 4. Oui, excuse-moi, oui, parce que c'était Révélation 3, excusez-moi.
Ouais.
Mais dans le principe,
tu disais, il y a 4 intéressés en fait. Non, donc.
Voilà, je prendrais pas le risque si tu veux. Et de ce point de vue-là, le crowdfunding me paraît intéressant parce que tu sais pas si tu vas vraiment, si tu vas pas bouffer la culotte. Et avec le crowdfunding, au moins tu peux arriver et dire
fais
okay,
la culotte.
Oui, fais les culottes. Et au moins tu sais à quel niveau tu te situes. Ok, je vais pas perdre d'argent.
Mais,
donc,
mais il me semblait que. Alors je sais plus si c'est Croc qui a parlé de ça un moment ou l'un des chroniqueurs qui parlait aussi du crowdfunding par rapport au je sais pas si c'est indépendant ou amateur le mot qui convient, mais en tout cas voilà des trucs moins professionnels, des mecs qui font leurs projets dans leur coin,
ah,
etc.
Y en a,
et c'est là-dessus qu'il avait l'air un peu plus critique en fait. Alors, je sais pas, tu me diras si je me trompe.
Je pense que
mais...
les gens, je pense que le client, que... il est pas bête, il sait juger. Ouais. Il va voir un super slogan sur Kickstarter, il va investir, il va tomber sur une sombre bouse, la prochaine fois il investira pas.
C'est vrai qu'il y a une question de confiance.
Il y a une phase de
d'acclimatation. La base du crowdfunding, c'est la confiance.
C'est la confiance. Et le problème, c'est que je trouve que la majorité de ce qu'on voit sur.
Tu payes pour du vent quand même tout le temps.
Non, actuellement on paye pour du vent, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que moi, je donne pas d'argent ou je donne pas ma voix, on va dire, au monde.
Il ne passera pas par toi.
Ça ne passera pas par moi en tout cas. Ce genre d'outil, à partir du moment où je ne connais pas les auteurs, où je ne sais pas ce qu'ils ont déjà fait avant. Ouais. J'ai donné de l'argent pour Epixis il n'y a pas très longtemps, qui est une espèce de reprise, traduction, adaptation en français d'un Donjon et Dragon limité au 6 premiers niveaux, qui était excellent. Je connaissais très bien l'un des auteurs parce que j'avais déjà travaillé avec lui. Il avait très bien préparé son projet. C'est-à-dire qu'il l'avait présenté, il y avait les illustrations, il y avait déjà des bouts de texte. C'est-à-dire qu'il y avait des choses sur lesquelles on pouvait investir en se disant sereinement, je me fais pas enfler. Voilà. Quand tu vas sur des sites de crowdfunding.
Après, t'as aussi le nom du mec qui fait le truc.
Ouais, mais alors le problème, c'est que tu peux pas. Moi, je donne pas d'argent juste sur le nom. Je donne de l'argent parce que le projet me semble intéressant.
Au moins que le pitch te plaise, quoi.
Oui, au moins que le pitch me plaise. Mais un pitch,
sûr,
ça fait pas un jeu parce que.
On est bien d'accord.
Croc a généré dans ses belles années un nombre de pitchs incroyable. Ça a pas forcément fait des jeux excellents à chaque fois. Alors que les pitchs étaient souvent très très bons. Là, il faut que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un projet qui soit fait exactement comme quand tu vas à ta banque présenter un projet de quoi que ce soit et que tu as besoin d'avoir des outils business, que tu as besoin d'avoir un retour, que tu as besoin d'avoir des choses comme ça. Là, quand tu fais un jeu ou quand tu fais quelque chose, il faut présenter quelque chose qui donne envie aux gens et dont on a l'impression que ce soit cohérent.
Moi, je veux pas pour donner mon argent dans le crowdfunding avoir un business plan face
non.
à moi.
Non. Je disais que c'était similaire.
Un plan en trois étapes.
Quand tu vas dans une banque, eux, ce qu'ils veulent voir, ce qui rend le projet crédible, c'est un business plan pour une banque.
C'est de savoir que le mec en face, tu sens qu'il
sait que c'est sérieux. Ouais. Moi, quand je vais sur un outil de crowdfunding, ou si j'y allais, en tout cas, enfin, ce qui me ferait y aller, en tout cas, c'est de trouver des projets qui me semblent cohérents. Et qui me semble réfléchi, pas des trucs, pas justement des idées d'un mec qui est arrivé en disant tiens je vais ouvrir un truc, j'ai telle idée de jeu de rôle, on va jouer je sais pas des rats dans l'espace.
Je pense que c'est assez rare et finalement des trucs flous comme ça. Je sais pas parce que moi non plus je fréquente pas tant que ça, c'est-à-dire que les projets que je vais voir ou que je soutiens c'est effectivement pareil.
Attention les gars alors si vous fréquentez pas
des...
trop je pense qu'on va avoir confiance de sujet.
J'allais dire non, ça m'est déjà arrivé, j'en ai déjà vu pas mal.
Effectivement non mais moi aussi.
Je suis pas retourné depuis.
Ce que je voulais dire par là c'est que les trucs que je soutiens c'est effectivement comme toi des gens que je connais, des projets où je sais ce qui se passe derrière. Donc ce serait intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a un gros compte en banque et qui voit des trucs écrits en une phrase, qui fait oh ça a l'air cool, allez je mets 100$.
C'est pour moi que tu dis ça.
Non, je dis pas ça pour toi. Je te regarde mais je pensais pas à toi.
Non mais si
à travers tes yeux je pensais aux auditeurs. Non, et voilà.
Si j'avais un gros compte en banque je le ferais.
Donc si je reviens au sujet pour être un peu
raccord. On va pas refaire le match.
Donc tu dis la vie c'était t'es pas tout à fait convaincu que le crowdfunding va tuer le jeu de rôle, les éditeurs de jeux de rôle. Et donc votre avis respectif c'est quoi alors?
Moi, c'est que c'est complémentaire.
D'accord.
Oui, également.
Cobalt.
Je le pense aussi parce que c'est un marché qui est tellement petit. C'est pas comme le jeu de plateau, je pense.
Moi, je pense que c'est juste indispensable le crowdfunding. Pour être très simple, c'est pour élargir l'offre. De toute façon, il y aura toujours des acheteurs de jeux de rôle, peut-être en beaucoup plus petite quantité, mais qui auront beaucoup plus de moyens. Et je pense que devoir être asséné systématiquement des traductions de diverses choses, c'est bien, mais c'est aussi bien d'avoir la création. Et je pense que l'outil d'aujourd'hui pour pouvoir que des auteurs puissent porter des projets intéressants et nouveaux et apporter un petit peu de renouveau dans tout ça, c'est justement par ça, parce que il n'est pas question que ces auteurs qui ont des super bonnes idées, qui savent peut-être super bien écrire et pouvoir mener quelque chose, et ben s'ils n'ont pas les sous pour le faire, et ben c'est dommage parce qu'on rate peut-être de bons jeux. Voilà, c'est.
Ouais, c'est vrai. Ça permet de voir émerger des projets originaux.
Oui, enfin les projets originaux.
Après, il faut qu'ils soient.
On est dans un milieu où on les voit de toute façon passer les projets originaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on est toujours au courant. On a des forums, on a des choses. Et le moindre mec qui a une idée intéressante, qui veut la mettre en œuvre et qui se sent le courage nécessaire pour le présenter aux gens, on le voit. Et si l'idée elle est bonne, on le voit tout de suite et ça commence à prendre la mayonnaise. Et si elle est pas bonne, de toute façon, ça s'effondre tout de suite. Mm. La différence par rapport à ça. C'est juste que le crowdfunding permet de financer la création du bouquin pour les gens qui ne suivent pas ou moins bien ça, quoi.
Avant-dernier point, il y a Croc qui aborde le fait d'initier ses enfants au jeu de rôle. Donc en expliquer les règles, maîtriser pour transmettre le virus et après laisser son môme se forger son propre imaginaire. Voilà, lui c'est ce qu'il a fait.
Alors moi je peux pas aborder le sujet, j'ai initié mon père mais pas mes enfants puisque j'en ai pas. Mais
alors je crois savoir qu'il y a des pères de famille parmi nous.
Alors moi je peux en parler, j'ai ouvert un fil de discussion sur Cassius justement qui s'appelle Jouer avec des enfants où j'ai initié mes enfants, donc à l'époque ils avaient 8 ans et 6 ans. Un jeu de rôle médiéval fantastique totalement inventé, avec des règles inventées aussi, à base de cartes à jouer que eux ont dessinées.
Oh, classe.
Donc l'idée, c'est qu'ils devaient dessiner soit un objet, soit un sortilège, et ensuite ils construisaient ce qu'ils voulaient, en fait, où il y avait une vingtaine de cartes, au final. Et ils devaient construire leur personnage en choisissant 3 cartes parmi l'ensemble, et voir ce qu'ils allaient faire comme personnage autour de ça. Donc mon fils a choisi l'armure, l'épée et le bouclier, ce qui a fait lui un guerrier, et ma fille a choisi une toile d'araignée, un sort de vol et des potions. Ce qui a fait d'elle une magicienne, sachant que tout ça, toutes les cartes ont été écrites, enfin ont été dessinées par eux, et les personnages ont été imaginés par eux. Puis moi, je leur ai improvisé une petite aventure dans les bois autour de ça.
Ton deuxième prénom, c'est Jonathan, non? C'est pas
pourquoi
ça.
Jonathan?
Everwest, ça te rappelle rien? La création de personnage, je veux dire, en choisissant des cartes et tu faisais justement ta création de perso.
En fait,
c'est
le truc,
c'est très sympa. Moi,
je pense qu'on est inspiré. Moi, j'avais l'impression de l'avoir inventé, mais encore une fois, j'ai tellement de systèmes dans la tête que forcément, ça a pu ressortir à un moment sans que je me rende compte. Tout à fait. En tout cas, ça a bien marché. Et le système de résolution des cartes, c'était.
Moi, je ferais un Kickstarter parce que ça a l'air d'une bonne idée.
Il y avait une carte gagnée, mais avec un petit désavantage, une carte gagnée, une carte perdue, mais avec un petit avantage. Et en fait, pour déterminer la réussite ou l'échec d'une action, il suffisait de tirer une carte. Autant vous dire que c'était narrativiste.
Ouais, clairement.
Parce que c'était à eux de définir ce qui se passait quand ils gagnaient. C'était pas forcément moi. Et puis, j'ai jamais vu des joueurs aussi investis que mes deux enfants. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils étaient à fond dedans. Ma fille, elle avait les yeux
qui brillaient.
Elle était complètement dedans. Elle comprenait les choses. Ils étaient cadrés correctement. C'est-à-dire qu'ils savaient ce qui était possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire avec leur personnage. Ce que certains joueurs de jeux de rôle, après 20 ans de jeux de rôle, n'ont toujours pas compris, même avec une feuille.
Alors, juste, tu peux peut-être préciser l'âge de tes enfants aussi.
Ouais, alors j'ai dit c'était 8 ans.
8 et 6.
À cette époque-là, c'était 8 ans et 6 ans.
D'accord.
Et on a refait quelques parties depuis. Et ce que je voulais dire, c'était plutôt mon ressenti. C'est-à-dire, autant le système de jeu, il est ce qu'il est, il est simple. Autant mon ressenti en tant que vieux maître, vieux con, comme on dit, de jeu de rôle, vieux maître de jeu, c'est que j'avais rarement pris autant de plaisir avec des joueurs neufs.
Je pense que tu n'as pas piétiné auparavant.
Que j'ai pas piétiné ou qui m'ont pas piétiné à l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, donc il n'y avait pas toutes les vieilles rancœurs qu'on traîne tout un truc comme ça. On était vraiment dans un truc très neuf avec des gens qui étaient investis, qui avaient envie de jouer, qui venaient pas parce que c'était la partie du mois ou la partie de la semaine, qui étaient là vraiment pour découvrir et imaginer quelque chose.
Je pense que c'est vraiment une question d'âge, ça. Le côté de je veux gagner, je joue pour gagner, et l'autre côté, je joue pour participer à une belle histoire.
Alors, et toi, ouais. Michael
Alors, moi, mes enfants sont trop jeunes pour ça. Mm-hmm. J'ai initié un certain nombre d'enfants, enfants et ados, au cours de mes longues années. La vie de Croc, parce que j'ai aussi écouté donc l'émission, je le trouve intéressant. Pourquoi ? Parce que, en effet, arriver dans le cas de Croc, son fils est adolescent. Donc l'adolescence est quand même un cap bien particulier. Mm-hmm. Et je pense qu'autant des enfants comme Yannick en 6, 8, 10 ans, il n'y a pas de problème les faire jouer. J'ai fait jouer aussi moi une nièce ou quoi que ce soit. Ça va très bien. Ils ont besoin d'être cadrés et ils savent qu'ils peuvent faire plein de choses. Et après, je ne sais pas si d'ailleurs ça a peut-être été le cas pour vous, si vous avez commencé aussi enfant, voire jeune adolescent jeu de rôle. Il y a un moment où vous lancez le dé, vous regardez le maître pour savoir si vous allez réussir ou s'il va se passer. Et donc, il y a un monte et vous êtes là, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et après, il y a le cap où vous achetez les règles et vous passez de l'autre côté. Et là, tout d'un coup, même si vous découvrez plein de nouvelles choses et vous devez mettre de jeu ou tout ce que vous voulez, il y a tout un côté magique du jeu de rôle qui disparaît. Et je pense qu'un enfant à 6 ou à 8 ans, il est dans cette espèce de la magie et qu'à l'adolescence, il a envie de prendre les choses en main. Et je pense que c'est pas le cas de Croc parce que c'est vraiment un choix lui personnel.
Ouais,
je pense
oui,
que
c'est fait,
son
c'est
fils
ce
et ses copains
disait, ouais.
auraient très eu envie qu'il continue à en maîtriser. Mm-hmm. Mais lui, c'est dit non. La patate, je transmets et il se débrouille. Pourquoi ? Parce qu'après, ses expériences, c'est à lui de les vivre. Et je pense que c'est une bonne idée. Alors qu'à 6-8 ans, l'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est participer à des belles aventures. Il sait peut-être pas les raconter. Mais par contre, il sait comment les animer. Et je pense que c'est juste magique. Et c'est vrai que c'est magique. Il y a vieux jeu comme Hurlement, dont plein de gens pensent du mal. Mais quoi, moi, je pense pour l'initiation, c'est un des meilleurs jeux que j'ai utilisé pour l'initiation, et notamment à des total non-rôlistes. Enfants, ados, même adultes. et c'était très pratique pour faire une partie, pour tester, c'était génial. Et vous voyez ce regard et vous dites voilà, ils sont à un stade, ils sont à un stade du jeu de rôle où c'est, même si on a de très bons souvenirs de jeu de rôle, et c'est un moment où la magie est dans les yeux. Et cette magie là dans les yeux, c'est très difficile de la retrouver. Alors, je pense que c'est comme le disent les gens qui sont des drogués, ils disent le premier fixe et après on essaie de retrouver. Je pense que ça doit être la même chose.
Alors juste parce que Crox qui disait aussi sur l'initiation par rapport aux adolescents, donc on va peut-être pouvoir comparer avec ton expérience, c'est que il parlait du cas dans le groupe des amis de son fils, d'un qui était un peu plus âgé, qui avait 16 ans je crois. Et il sentait qu'il n'était pas à l'aise avec Croc comme maître de jeu parce que ah c'était oui, un adulte, sûr, parce qu'il n'osait pas partager et tout. Ouais. Et que c'était une autre raison aussi pour laquelle il s'était retiré. Parce qu'il disait, une fois que je les ai laissés dans leur coin, bah, ce type-là, là, il a pris les rênes et il n'y avait plus de soucis. Quoi.
Je confirme complètement. Il y a des enfants qui, l'autorité, quoi. Ceux qui ont été élevés dans toujours le principe du respect de l'ancien, ce qui évidemment se perd, il y a un côté où voilà, et oublions pas qu'il y a quand même des enfants qui sont élevés, ils appellent pas leurs parents autrement par mère, père, mm-hmm. Et qui les vouvoient. Donc, ouais, moi, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué, mais donc, un enfant qui a été élevé comme ça sur un respect extrême, évidemment, c'est le père d'un copain.
Je suis pas sûr que le père en question qui se fait appeler père, il soit très rôliste.
Non, mais c'est un autre débat. Je rentre pas plus, je vais pas plus loin, c'est parce que je pense que là.
Sociologie du jeu de rôle, là, ouais, je pense que là, c'est un large débat.
Je suis pas sociologue, c'est pas mon boulot, faudrait appeler Benoît Atinos. Et lui, il pourra plus analyser les choses. Alors, mais là,
cela dit, juste pour rebondir un peu sur ce que disait le côté magique, moi, je l'ai ressenti là avec les enfants parce que c'était vraiment flagrant, c'était vraiment évident. Par contre, j'ai initié il y a quelques années des amis d'amis qui avaient juste envie, qui avaient entendu parler et qui savaient que je maîtrisais. Je leur avais fait une partie comme ça, donc avec des gens qui ne connaissaient quasi rien au jeu de rôle que ce qu'ils avaient entendu. Et je leur avais fait une partie de... c'était Over the Edge, une conspiration. Ouais. Donc avec des règles très faciles à apprendre et très... évocatrice en tout cas, avec des traits que j'avais définis, des personnages prétirés, et j'avais eu exactement la même réaction, c'est-à-dire des gens qui étaient à fond dedans, qui avaient super bien compris, qui connaissaient les limites et qui ont donné une vraie démesure à leur imagination et qui se sont éclatés.
Le premier voilà. fixe.
C'est le premier fixe.
Le premier fixe. Voilà. Non mais bon, voilà. C'est vrai que moi en tout cas je suis voilà.
Ok.
Vas-y, continue.
Bon, et le...
Il n'y a pas de punch, c'est pas possible.
Le dernier point que je souhaitais juste évoquer comme ça en passant, c'est In Nomine Satanis, 5e édition.
Fais gaffe, parce que la dernière fois que t'as dit j'évoque un truc en passant, c'était Bloodlust et on a parlé pendant une heure dessus.
Bon, ceci dit, pour une intro, je pense que déjà,
on a pas mal blindé. C'est marrant d'ailleurs parce que pendant le Bazincast, il disait alors il y a une question de Cobal, et puis il y répondait pas. Alors Cobal, vous l'avez demandé pour INS, et sinon Cobal, vous laissez.
Oui, je
Donc,
sais,
on a senti que ça t'intéressait un
oui,
peu.
Voilà. Parce que quand même, la 5e édition d'INS, apparemment, ça fait un bon moment qu'il travaille dessus.
Je pense que moins on lui en parlera, plus il y aura de chances qu'elle sortira.
Ouais. Bah, lui, il a
Arrêter de le saouler avec ça, je pense que sinon ça sortira pas.
Non, mais je le poursuis pas dans la rue. Hein.
Non, mais il me semble qu'il avait écrit sur un forum là-dessus pour dire voilà, grosso modo, laissez-moi, plus vous le demanderez, moins vous avez de chances de l'avoir. Je pense que laissons-le faire et puis un jour on va apprendre. Ah, tiens, la 5e édition.
Là, il semblait dire dans le Bazincast que c'était tout à fait en bonne voie, que juste.
Que ça sortirait pour
2013, que juste il y aurait sans doute qu'un seul tirage parce que il fallait. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, je trouvais ça très intéressant tout ce qu'il a dit sur. L'aspect financier d'Asmodée, le fait que finalement les jeux de rôle c'était un petit peu vendu
oui,
vendu
voilà,
à perte
c'est ça,
quoi.
Ouais.
Une danseuse.
Et un plaisir qu'un vrai apport financier. Et donc ce qu'il disait pour INS, c'est qu'a priori voilà il en sortirait je sais plus ce qu'il a dit 3000 quelque chose comme ça, et il y en aurait 3000 après qu'on se démerde
si j'en veux un.
Ah oui,
moi aussi.
En fait, il a tout compris. Il va faire, voilà, il va les sortir en or, en argent et en bronze. Et après, faudra que tu.
Peut-être que ça marcherait. Il y a qu'à voir les éditions spéciales de chez Sans Détour.
Oh là là, oui. Me lance pas là-dessus parce que.
Qui marche très très bien.
Non mais par contre,
parce que j'ai des choses à dire et pas des bonnes.
Qu'on enquille, cher ami, parce que.
Oui, tout à fait. Pardon.
En absence de punch, il faut qu'on passe à autre chose.
Oui, tout à fait. Donc, vu que tu tiens le crachoir, je te propose de parler. On parlait de la dernière fois des traductions.
Ah oui, oui. une petite précision quand même, parce que je maintiens quand même ce que j'ai dit. Hein. Je pense que voilà, ça revient exactement au principe du crowdfunding, ce qu'on disait. Mm-hmm. Un éditeur français qui se lance dans une traduction en anglais, si c'est lui qui imprime, c'est lui qui prend les risques, il aura plus que ses yeux pour pleurer. Mais c'est vrai que j'avais volontairement mis de côté un sujet qui est le 7ème cercle, qui eux, je pense, ont une idée assez intéressante, qui est s'associer avec Cubicle 7. Et donc, dans le cas d'une association avec une société comme ça, en plus, qui est anglaise et non pas américaine, et ben, du coup, quand c'est un anglais qui amène un jeu de rôle français traduit en anglais aux États-Unis, il a beaucoup plus de chances de fonctionner. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont peut-être le mieux compris les choses de ce point de vue-là, c'est 7ème cercle. Après, est-ce que ça marchera ou pas, je ne sais pas. Mais j'imagine qu'en l'occurrence, c'est Cubicle 7 qui prend le risque. Donc, bravo, bien joué. Parce que si ça se plante, au moins, vous n'aurez pas vos yeux pour pleurer.
Ce qui se fait aussi, ce sont des Kickstarter pour les éditions anglaises.
Ouais, ouais, donc,
c'est
ouais,
un autre.
Non, mais ça, c'est la bonne solution, je pense. Parce que vraiment, des éditions anglaises d'un jeu français qui a marché par le passé, j'en connais pas. Après, je ne connais pas tout, hein. Je ne suis pas omniscient, mais en l'occurrence, je n'en connais pas.
Oui, non, je cherche, mais à part une nominée qui n'est pas vraiment une traduction.
Non, c'est pas du tout une traduction.
C'est un échange de licence.
Oui, oui.
Ouais.
C'est non, mais effectivement. Non, y a alors qu'effectivement, les jeux de 7ème cercle en anglais, je crois qu'ils ont. Alors, je sais pas s'ils ont connu un succès financier, mais en tout cas, un succès d'estime, ça c'est sûr.
Oui, succès d'estime pour Chin, c'est sûr, vu que ça en parle. Il y a des gens qui attendent les nouveaux jeux. Mais après, on saura évidemment jamais si ça a vraiment marché. Le principal, c'est que 7ème cercle est toujours vivant, et ouais, c'est tout ce que je leur souhaite.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que ça leur fait pas prendre de risques pour leur publication par ailleurs. Donc voilà. Oui. Je tenais à saluer quand même cette idée qui me paraît la plus intelligente pour apporter en anglais des jeux français. Mm.
Bon, je vous propose qu'on arrête là pour les news, parce que j'en ai encore plein, mais
c'est pas des news qu'on a fait, c'est une discussion.
La prochaine fois, on fait un spécial news, hein, si tu veux.
Non, mais voilà, c'est une discussion, mais il faudrait donner un peu de contenu pour nos auditeurs, et on va commencer tout de suite avec toi, Yannick, avec Deadlands Reloaded.
Deadlands Reloaded, donc c'est une nouvelle version, enfin en tout cas une nouvelle édition d'un jeu qui a déjà un certain nombre d'années au compteur, qui s'appelait donc Deadlands à l'époque, où on joue des cow-boys, on va dire, ou assimilés dans un univers, dans l'Ouest sauvage, un petit peu modifié, un petit peu horrifique, dans lequel il y a des tas de monstres qui circulent gaiement, sur fond de guerre du rail. Donc imaginez tous les westerns que vous pouvez avoir vus étant enfant, et vous y ajoutez des monstres, des wendigos, vous y ajoutez des
morts vivants,
Cthulhu quelque part,
pas mal de magie aussi. Tout, voilà.
Alors c'est un petit peu de Cthulhu, sauf que c'est pas les personnages les victimes.
Non, on est bien.
C'est quand même beaucoup plus pulp que Cthulhu. Hein.
Oui, c'est beaucoup plus pulp.
Un pulp dans le sens où ton personnage meurt pas en général.
Un rapide rappel un petit peu de l'univers. Deadlands, l'ancienne version, s'étendait sur une quinzaine de suppléments, il me semble.
Quelque chose
comme ça.
Je les avais tous. Hein.
On avait un mur entier.
Oh là là, oui.
Donc il y a eu deux éditions. La nouvelle version, donc, qui s'appelle Reloaded, est censée pouvoir condenser la majorité des informations intéressantes initialement dispersées dans ces différents suppléments en un seul livre. Mon avis est que ça a marché. C'est-à-dire que Deadlands Reloaded a des avantages et des inconvénients. L'un de ses avantages, en tout cas, c'est qu'il est complet. Il a tout ce qu'il faut pour jouer, à part un scénario. Bon, ça, c'est un peu une constante, j'allais dire.
C'est un peu dommage.
C'est un peu une constante. Mais à part ça, il a tout ce qu'il faut pour jouer. C'est-à-dire que la majorité des secrets du monde sont dans le livre ce qu'on appelle le livre du Marshal, c'est-à-dire le livre du maître de jeu, la deuxième partie, qui est normalement interdite de lecture au lecteur. Enfin, aux joueurs. Il y a tout ce qu'il faut pour le joueur pour commencer à jouer n'importe quel personnage, soit un cow-boy ou quelqu'un de, on va dire, de normal, enfin en tout cas un personnage emblématique de ce type d'univers, soit des personnages un peu plus magiques. Alors on peut trouver par exemple des hucksters, qui sont des magiciens, des magiciens qui manipulent les cartes pour faire des sortilèges. On peut jouer des chamans indiens, on peut jouer des gens qui ont la foi, des prêtres de différentes religions. On peut aussi y jouer des pratiquants d'arts martiaux. Donc,
des pratiquants d'arts martiaux.
Oui, en fait, Deadlands...
Dans le Far West.
Dans le Far West, ouais.
Moi, je connais surtout... j'ai feuilleté Reloaded, mais je connaissais très bien l'édition avant, puisque j'y ai joué pendant très longtemps. Et c'est vrai que c'était à la fois une richesse et un défaut. C'est-à-dire que c'était un univers extrêmement riche.
Et baroque
qui mélangeait beaucoup de choses, et c'est vrai que pour s'y retrouver, en fait, il valait mieux dire ok, moi je vais faire jouer plutôt le côté steampunk parce que sinon on s'y retrouvait pas.
En fait, c'est
donc
le même
t'avais
défaut.
Effectivement un supplément,
c'est le même
avec
défaut
des arts martiaux
que Vampire ou Innominé ou d'autres choses. En fait, c'est que
je
vais en parler juste après.
Ouais.
Et le dernier type de personnage qu'on peut jouer, ce sont les savants fous. Donc des gens qui construisent des machines, effectivement, dans un espèce d'esprit steampunk.
Alors juste, je t'interromps une dernière fois, parce que est-ce que dans le Deadlands première version, tu pouvais aussi jouer c'était pas vraiment des morts vivants, mais des types
déterrés.
Qui étaient revenus, voilà, des déterrés. Ça existe
alors,
encore
dans la première, avant, tu pouvais le jouer, c'était quelque chose qui était réservé au Marshal, c'est toujours réservé au Marshal, mais ça reste une possibilité. N'importe quel personnage normal,
d'accord,
entre guillemets, peut devenir un déterré une fois qu'il est mort. C'est une possibilité, je suis pas persuadé que ce soit c'est bizarre parce que je suis pas persuadé que ce soit très intéressant comme ça, mais finalement c'est eux qui ont les meilleures règles. Je vais en parler.
Non, mais
les plus intéressants.
Oh bah, au niveau du concept, je trouvais ça assez intéressant. Les déterrés, pour expliquer très rapidement, donc en gros le type est revenu à la vie, mais il est possédé par un démon. Un esprit de ces gros monstres que tu évoquais, et donc il y a une espèce de lutte qui se traduit par des règles techniques, qui fait que parfois le démon peut prendre le dessus et parfois non.
Ouais, mais
et
ça c'est là, juste c'est un cas particulier de perso.
Oui,
c'était un cas particulier qui a été intégré dans le jeu dans le cadre d'un supplément avec le temps. Peut-être on peut jouer aussi un Pinkerton pour faire un mystère de l'Ouest aussi.
Oui.
Il y a beaucoup de possibilités.
Secrets,
quoi, voilà, pour résumer,
vous pouvez jouer des agents secrets, vous pouvez jouer des agents de l'Union, vous pouvez jouer des Texas Ranger, vous pouvez jouer des tas de personnages.
C'est très ouvert, oui.
Alors, ce livre-là donc, est vraiment complet, il présente tous les types de personnages que vous pouvez jouer. Le système de jeu les prend parfaitement en compte. C'est assez fun. Il y a comme défaut de sa richesse. C'est-à-dire que quand on jouait à l'époque à Vampire Innominé, où on avait l'impression d'être les seuls angers des mondes innominés, ou alors les seuls vampires de la Nouvelle-Orléans, par exemple. Au fur et à mesure des suppléments, on y ajoutait tel élément magique, tel élément magique, tel élément magique. Et à la fin, on se demandait où étaient les humains. Là, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire que, c'est un peu le même truc dans
Deadlands Reloaded. Sauf que t'as tous les suppléments d'un coup.
Tous les suppléments d'un coup.
Ouais, donc
exactement.
C'est pas faire de trucs.
Donc, quelqu'un qui débarque un petit peu là-dedans et qui se dit pas comme exactement comme tu voulais dire, je vais plutôt axer la partie sur tel sous-ensemble de l'univers, ou plutôt tel sous-ensemble. S'il veut tout mettre, parce que par défaut, on se dit ouais, j'ai tout, je vais tout mettre.
Ouais,
c'est quand même
quand t'es dans ta cuisine, t'as plein de super bons plats, tu les manges tous ensemble.
Ouais, tous en même temps, t'es un peu écœuré.
C'était l'avantage de la première édition où les éléments se rajoutaient supplément par supplément.
Ouais, oui,
alors après, t'étais parti sur un parti pris avec ta campagne.
Ouais.
Et on peut faire ça. Ah merde.
Surtout que nouvelle gamme oblige, tu te demandes s'ils vont pas rajouter encore des nouveaux trucs.
Oui, tout à fait. Mais enfin, en tout cas, là, mon sens.
Là, ils ont fait le tour.
Là, ils ont fait le tour.
Rapprocher.
Là, c'est quand même, à mon avis, c'est quand même pas mal. Il a comme défaut que c'est très axé baston. C'est-à-dire qu'autant le fond est quand même très intéressant, autant les règles. Et la deuxième partie du livre montre quand même un bestiaire très conséquent. J'avais l'impression de lire le manuel des monstres. Avec des attaques spéciales, avec des trucs comme ça. Des paragraphes très.
Des trésors.
Non, il n'y a pas de trésors.
Un butin.
Non.
Il y a de l'équipement.
Il y a de l'équipement. Non, il y a de l'équipement spécial des savants fous. Mais...
Tu sais que j'ai fait un scénar de Deadlands
faut pas raconter les parties.
Qui s'inspirait d'un background tout à fait officiel où il y avait une grotte avec un dragon. Et c'est dans le bouquin.
J'ai trouvé les dragons dans le. Voilà. Il y a des choses qui me sortent un petit peu. Et surtout, j'avais l'impression de lire un catalogue de monstres, effectivement, avec, à l'inverse de certains bestiaires peut-être un peu mieux faits, très très peu de lignes finalement sur ce qu'étaient les monstres, pourquoi ils étaient là, comment ça fonctionnait, etc. Il y a un peu, mais c'est pas.
L'antithèse du bestiaire de Warhammer 2ème édition, quoi.
Au contraire,
t'avais des monstres, mais avec du background, des courriers, des machins, des choses qui t'inspiraient.
Ou du bestiaire du DK2, par exemple, où c'était un monstre.
Les monstres, ils sont là juste pour se faire tuer, quoi, en fait.
Là, les monstres sont un peu là pour se faire tuer. D'ailleurs, ils ont des niveaux de peur, ils ont des choses qui font que si tu les tues, dans la zone, ça va faire réagir un petit peu les gens, etc. Donc, il y a une espèce de truc de background quand même.
C'est un jeu pour américain, tu
mais
comprends
ça, hein. Non, j'irai pas dans cette voie.
Il faut des dieux. Ah, mais rajoutez-nous des dieux, là, on les a déjà tous tués.
Non, là, effectivement, il y a un bestiaire. Un petit point. Donc, là, il y a quand même pas mal de background, enfin, même beaucoup de background, mais très condensé, pas mal expliqué, mais en même temps vraiment très condensé, parce qu'ils ont voulu tout mettre dans, je sais pas, 150 pages.
De...
Il fait 450 pages, donc d'ailleurs, je sais pas, 200 pages de background, 200 pages de règles.
Et quand même 200 pages de background, c'est quand même.
Un truc comme ça. Non, non, c'est, attention, c'est pas rien. Quand je dis 200 pages de background, c'est en incluant le manuel des monstres.
Ah, c'est du background pour toi, ouais, d'accord.
De 80 pages.
De 80 pages.
Donc, on descend à 120. Attends, on rajoute un truc. Ah, on descend à 80. On descend 50 pages.
Les listes de pouvoirs.
T'allais peut-être en parler, mais dans la première version Deadlands, t'avais aussi, au fur et à mesure des suppléments, un métaplot assez conséquent.
Il y est
également en entier.
Enfin, en entier,
parce
pas
que
forcément,
voilà.
Enfin, on a l'explication initiale qui n'avait pas forcément dans le premier bouquin.
Oui, c'est ça, en fait.
Du premier,
parce que je me souviens très bien que dans le bouquin de base de Deadlands, c'était un peu. Oui, il y a une raison derrière tout ça, mais vous le saurez quand le 15e supplément sortira.
Non, c'était le Reconning, voilà, mais on vous expliquera plus.
Non, non.
Ouais, c'est là, il y a le. Plus tard, ouais.
Bah, justement, ils en parlent. Ils parlent des juges. Enfin, ils parlent de Raven. Enfin, des différents personnages importants qui ont permis de générer cet état de fait. Et ça permet au jeu, enfin, aux joueurs de pouvoir et aux MJ donc de pouvoir jouer différents niveaux de puissance. Et d'ailleurs, c'est pris en compte par les règles. D'ailleurs, voilà mon petit mon petit saut de puce vers le système des règles. Les règles prennent en compte ces différents niveaux de puissance. Au début, on crée des personnages qui sont dits novices. Les personnages sont créés avec donc des caractéristiques, des compétences, des atouts et des désavantages de manière assez classique. C'est inspiré de l'ancien système, c'est épuré, c'est devenu ce qu'on appelle du Savage World.
Il y a plus les systèmes avec les pions, les cartes,
les 5 types de dés.
Les jeux tombent pas les pions, les jeux
c'était
jetons de
poker. On appelle ça des chips. Alors si, très rapidement, on a des caractéristiques qui sont notés avec un type de dés entre des 4, des 6, des 8, des 10 et des 12. On a des compétences qui sont notées exactement de la même manière et qui indiquent le type de dés à jeter lorsqu'on veut réussir ou enfin qu'on veut tenter une action. Et on doit battre un certain facteur de difficulté qui est la plupart du temps 4. Donc on voit bien que quand on a un dé de 12, c'est plus facile que quand on a un dé de 6, évidemment, ou un dé de 4. À cela, on rajoute des avantages qui portent le nom de atouts qui vont donner, la plupart du temps, les atouts de base vont donner un petit bonus de plus 2 sur un type d'action particulier ou alors vont permettre des actions spéciales, genre tirer avec deux armes ou des choses comme ça. La majorité des atouts peuvent se prendre avec comme prérequis le fait d'être un novice, c'est-à-dire que les personnages débutants peuvent le prendre. Un certain nombre d'atouts sont ensuite prenables uniquement si vous avez déjà évolué, c'est-à-dire que si votre personnage il a acquis suffisamment d'expérience ou si le maître de jeu décide de vous faire jouer un plus haut niveau, vous avez la possibilité de choisir des atouts de niveau, on va dire, apprenti, maître, etc., jusqu'au niveau légendaire. Les atouts légendaires sont évidemment très puissants et sont normalement réservés aux personnages qui sont très influents sur le monde, qui sont déjà établis, typiquement des niveaux 20 de donjons, des choses comme ça. Bon. Vous avez quand même, il y a quand même beaucoup d'atouts, une belle pléthore il y a quand même pas mal de choses à faire. Moi, je déplore un petit peu cette profusion. Enfin, je déplore, mais d'un autre côté, je suis un peu spécialiste de ça aussi. Avec les différents jeux que je connais.
Ces atouts, ils sont uniquement orientés combat ou...
Non, comment dire. Non, ils sont pas que orientés combat, mais à 80% oui.
D'accord, ok.
En fait, il y a pas d'atouts. Enfin, il y a des atouts sociaux, mais c'est genre pour ajouter un point charisme qui va te permettre de faire un sarcasme ou un truc comme ça, quoi.
D'accord. Donc, avant de la télé.
Orienté combat physique, combat social, et puis accessoirement un petit peu de soin aussi, quand même.
Oui, c'est ça.
Et de la magie.
Alors voilà, il y a toute une série d'atouts d'arcane qui permettent d'être un magicien, donc de tel ou tel type, ceux que j'ai décrits tout à l'heure. Quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont intégré un truc que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont rendu un peu plus abstrait le système de pouvoir. Avant, on avait, dans les premières éditions, il y avait des pouvoirs qui étaient très définis pour chaque type de personnage, chaque type de magie. Maintenant, ils ont décidé de faire un truc qui est très intéressant, qui existe déjà depuis dans d'autres jeux de rôle, mais qui est pas mal, qui est de dire que on a un effet, par exemple, hop, l'effet magique, c'est je balance du feu. Et en fonction du type de magicien qui va acheter cet effet-là, on va lui donner une forme. Typiquement, le savant fou, il va créer un lance-flamme, ou alors il va créer un lance-bombe, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Tandis que le huckster, il va balancer un jet de flamme qui va sortir de sa manche en même temps qu'un certain nombre de cartes. Bon. C'est-à-dire que l'effet technique des règles est le même pour tous. Mm-hmm. Et en plus de ça, ça permet de simplifier la liste des pouvoirs.
Ouais.
Par contre, la forme elle-même, elle est dépendante du type de magicien. Bon, moi, je trouve ça très bien. Voilà, ça me semble être maintenant vers là qu'il faut se diriger quand on crée des règles.
Ça permet d'unifier le système.
Ouais. Alors, ça permet d'unifier les types de magiciens.
Ouais.
Voilà. Par contre, chaque pouvoir a un effet différent. Donc, on retombe un petit peu dans l'effet inverse. Moi, je suis pas un grand fan de Savage World en général. J'avais déjà joué il y a quelques années. Là, à la relecture et puis une petite partie test. Bon, moi je suis pas un grand fan parce que je trouve qu'il y a c'est très aléatoire. On lance soit un seul dé qui correspond donc à son à la caractéristique ou à la compétence qu'on veut tester, et en plus de ça, les personnages et certains monstres sont dits jokers, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de lancer un dé de 6 en plus et de prendre le meilleur des deux. Moi, je trouve ça assez aléatoire. Enfin, d'une manière générale, c'est y a une trop grande variance entre les différents résultats. Et quelqu'un qui a un D de 12, je sais pas, en force, peut se retrouver à faire des 1, des 2 assez régulièrement s'il a pas de chance, et donc à rater tous ses jets. C'est un petit. Oui.
Non, je disais, il parle de variance. En effet, je pense que c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il aime pas quand il y a profusion de pouvoir, mais je pense qu'il analyse, il sait bien les analyser.
Oui.
Sinon, il parlerait pas de variance.
Ah non, mais moi, je suis un spécialiste. Hein.
Oui, bah oui.
C'est un peu mon.
C'est son rayon.
C'est mon rayon. Non, donc voilà, il y a ce genre de choses qui font que j'ai un peu de mal à sentir la puissance de mon personnage, j'ai un peu de mal à me dire tiens il va faire ça, il va faire ça. Il y a une belle possibilité d'évolution quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'atouts, beaucoup de possibilités de gagner des points par-ci par-là, donc on voit que son personnage il est absolument pas figé, donc ça c'est intéressant dans une optique de campagne, et en même temps derrière il y a quand même pas mal de choses à faire. En termes de livres purs, c'est-à-dire d'écriture, il y a pas mal, des fois il y a des contresens, il y a des coquilles, bon ça on en trouve un petit peu dans tous les bouquins, on peut pas faire autrement, mais là c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui m'ont sauté aux yeux, des erreurs de traduction un petit peu bizarres. Et surtout il y a quelque chose que j'aime pas vraiment, si je peux me permettre, c'est
mais
que
en
fait il y a une astuce de règle qui est assez répandue qui dit que quand on fait le maximum sur le dé, on peut le relancer. Et ajouter,
c'est-à-dire oui, d'explosif.
Nous on a toujours appelé ça le d'explosif.
Rollmaster,
depuis Rollmaster, voilà. Là-dedans, ils appellent ça l'as. Ils disent, si tu fais un as, dans ma tête c'était un 1, mais en fait non, c'est si tu fais le maximum sur le dé, à ce moment-là tu le relances et tu le rajoutes. Et la marge de réussite, c'est-à-dire que de combien de points tu as dépassé la difficulté, et donc cette valeur-là est importante pour calculer l'efficacité de ton jet, c'est appelé relance. C'est-à-dire chaque tranche de 4 points au-dessus de la difficulté est appelée relance. Donc on se retrouve à appeler relance quelque chose qui est une marge et à appeler as quelque chose qui est une relance.
Et en anglais, ça donne quoi?
J'en sais rien du tout, mais je pense que c'est la même chose.
Oui, parce qu'il me semble que c'est une mécanique qui existait peu ou prou dans la première édition, et c'était aussi des termes
De poker.
Des termes de poker.
Mais on parlait plutôt de raise, il y avait plutôt des.
Peut-être.
Un raise, c'est une augmentation.
Mais c'était quand même un peu.
Je sais pas, j'ai pas vu la VO de Reloaded, donc faudra regarder la VO de Reloaded pour savoir.
D'un
exactement.
Côté, relance, c'est relance au terme de poker, c'est vraiment vas-y, tu repars pas.
Ouais, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident.
Voilà, c'est pas très clair. De la même manière, les personnages joueurs et certains personnages non joueurs, donc certains monstres très puissants nommés, on les appelle des jokers pour dire attention, ils sont spéciaux. Sauf que dans le jeu, il y a pas mal de références au poker et on parle aussi de joker. Donc quand un joker tire un joker sur son initiative, c'est des fois un petit peu perturbant.
D'accord. Ah oui, donc, c'est pas très clair tout ça.
C'est pas très clair. On utilise le jeu de cartes. Alors juste, comment est-ce qu'on utilise le poker dans Deadlands? L'initiative, par exemple, lors d'un combat, c'est-à-dire qui va agir en premier ou à quel rang il va agir et tirer grâce aux cartes à jouer. C'est beaucoup simplifié par rapport à la première version. On avait une pléthore de cartes dans les mains, je sais pas si tu te souviens.
Si, c'était le bordel.
C'est un peu compliqué.
C'est la galère.
Là, on en tire une seule, mais on peut en tirer deux ou trois en fonction des circonstances, de ses atouts au maximum. Dans tous les cas, on n'agira qu'une seule fois, alors qu'avant, c'était vraiment un peu le bordel. Donc ça c'est pas mal. On a des jetons de poker qui sont l'équivalent des points d'héroïsme qu'on se distribue dans d'autres jeux. Ces pions de joker sont vont être dépensés par le joueur ou le MJ qui peut aussi
en
disposer.
Des pions de joker, tu entends encore.
Excuse-moi, t'as raison. Non.
Ah, ça pardon, y est, il y a un troisième.
Non, des pions de poker, excuse-moi. Donc on appelle des chips normalement. Enfin nous on appelle ça des chips. Et ces chips-là peuvent avoir différentes couleurs. Bon, et on peut en gagner des spéciaux, dits des légendaires, quand on fait des actions extraordinaires dans le monde. Et à ce moment-là, ils viennent se rajouter dans le pot commun. Et donc peuvent être tirés lorsque les joueurs en ont besoin, et donc c'est une espèce de carotte pour les joueurs. D'accord. Pour essayer d'améliorer le monde en entier, quoi.
En t'entendant, j'ai l'impression qu'ils ont voulu simplifier, mais qu'au final ils n'ont pas réussi à simplifier exactement, parce que
il
y a toujours autant de variables et toujours autant de choses à gérer pour un joueur. Bêtement, ce qu'il a autour de lui, il a des cartes, des jetons, il y a les mécanismes de règles, et donc au final j'ai l'impression que c'est encore usine à gaz, moins usine à gaz, mais usine à gaz toujours.
Alors, ça l'est moins, mais c'est exactement ça en fait à la lecture.
Attendre Deadlands Revenge pour avoir, à mon avis, le...
En fait, toutes les 10 pages, il y a marqué attention, c'est du Savage World. Vous, c'est simplifié, c'est fait pour être fun et rapide.
En fait, ils veulent se convaincre eux-mêmes, quoi.
Non, c'est pas ça. Moi, je trouve ça pas mal au départ. C'est-à-dire qu'ils donnent l'intention, donc c'est pas mal. Moi, je dis attention, mon système, il est compliqué, mais il a telle intention.
Vous allez signer des yeux en le disant.
T'as entendu la traduction à ces joueurs, ils disent c'est un jeu compliqué, mais vous allez voir. Alors que eux, sur le livre, ils disent c'est un jeu simple.
Dans le livre, ils disent c'est simple, et en fait, ça l'est pas. Alors, enfin, ça l'est pas de mon point de vue. C'est vrai que c'est plus simple, clairement, il y a rien à dire, mais c'est pas forcément simplifié. Voilà un petit peu les différentes variantes. Donc les chips, ils permettent de relancer des actions, de relancer des dés, d'améliorer un petit peu les qualités de réussite de son personnage.
Et donc au bilan, c'est quoi ton bilan?
Alors moi je lui donnerais, si on devait donner une note grog, je donnerais un 3,5. parce que clairement il y a de la matière, vraiment.
Sur 5 hein.
Sur 5, excusez-moi. Il y a de la matière, il y a de quoi jouer, il y a beaucoup à lire, c'est à peu près intéressant tout le temps. Il y a quelques défauts vraiment mineurs, mais genre à un moment il parle pour réussir une action de pirater un ordinateur. Bon, clairement on sent que ça vient de ça va jouer et qu'ils sont obligés de nettoyer. Parce que Savage Worlds, c'est un système de jeu qui est utilisé pour plein d'univers différents,
qui est
un univers voilà, générique. Et ils ont sans doute laissé cette scorise là. Donc c'est quand même très intéressant. Il y a plein de monstres si on a envie de jouer un petit peu brutalement. Il y a pas mal de choses à faire si on veut jouer les guerres du rail. Il y a plein de types de personnages différents qui sont pas des classes de personnages, attention, mais qui sont différentes possibilités de jouer. Donc vraiment, il y a de la matière, il y a envie. En même temps, moi je suis quand même gêné par les règles elles-mêmes. Alors, c'est un peu, comme tu l'as dit, c'est un peu mon truc, parce que je trouve qu'elles atteignent pas leur but, qu'elles sont pas si simples que ça, qu'elles sont pas si rapides que ça, et qui, même si elles ont quand même des tas d'avantages, il y a des tas de choses bien, c'est exactement ce que t'as dit tout à l'heure, Michael, c'est que l'intention, en fait, est pas complètement remplie. C'est-à-dire qu'ils avaient une intention, et puis ils en ont rajouté en disant « Ah, il faut qu'on soit complet là ou là », et ils ont pas réussi.
En entendant ce que tu dis, moi j'entends ça, déjà, et d'une, ils ont voulu faire un jeu simple, mais c'est resté un jeu compliqué. Et la deuxième, c'est ils ont donné tout, et donc ils font un MJ qui a une tête bien ancrée, parce que comme il n'y a pas de scénario, donc tu sais pas déjà dans quel sens ça va, et donc t'as énormément de matière, énormément de données, et donc qu'est-ce que je vais prendre dans ces données ? Donc il faut quelqu'un, un MJ qui est vraiment un MJ avec de la bouteille et avec des joueurs qui sont capables de gérer ces règles.
Mais d'ailleurs, d'ailleurs c'est très bizarre de pas inclure de scénario dans une réédition d'un jeu où t'en as je sais pas des centaines déjà existants.
Dans le livre de base de Deadlands première édition, dans mon souvenir, il y avait pas de scénario. Je crois pas qu'il y avait de scénario.
Alors là,
parce qu'ils avaient sorti juste derrière.
Je sais que dans les suppléments, il y avait un scénario.
Bien sûr, mais moi, dans mon souvenir,
c'est une bonne question.
C'est loin pour moi la lecture de Deadlands.
Oui, moi aussi, c'est
mais j'avais pas le souvenir qu'il y avait un scénario. Et c'est vrai que c'est un.
Il y a des tables de rencontres. Hein, excusez-moi.
Ah ouais. Alors ça change tout alors.
C'est-à-dire que dans les descriptions de chacune des zones, en fait, dans lesquelles du Grand Ouest. Ou de l'Ouest sauvage, il y a quand même des tables avec des D6 à lancer.
C'est les scénarios. C'est des scénarios pour les Américains.
Et pour les combats, par exemple, juste pour dire que c'est pas forcément évident, en fait, ils étaient partis pour utiliser des figurines. C'est-à-dire qu'il y a des distances en cases. Et tout
oui, c'est vrai.
Il y a des gabarits à découper à la fin, avec des gabarits genre pour les explosions, pour
des
choses comme ça.
Énorme.
Et en fait, c'est juste décrit sur quelques pages, c'est un peu disséminé partout, et il n'y a pas de vrai chapitre utiliser des figurines, ou alors ne pas en utiliser, tu sais. C'est un petit peu bon, bah nous on s'est dit que voilà, ce serait bien que des figurines, donc voilà comment on fait. Mais vous
on
êtes pas
attendait de signer un accord avec un éditeur de figurines en cas où mais on n'a pas signé, donc on laisse au cas où, comme ça derrière on pourra rajouter.
Je sais pas ce qui s'est passé derrière, mais voilà, ça m'a fait un peu cet effet là. Donc non, moi j'ai trouvé dans l'ensemble c'était une lecture plutôt agréable. J'ai eu beaucoup de mal au début à rentrer dedans, et en fait par la suite, en lisant la deuxième partie, le livre du Marshall, j'ai trouvé quand même que
c'est peut-être parce que ça attaque par de la règle et pas par du bagan.
Ouais, mais moi je commence toujours par les règles, même si c'est en deuxième partie. Parce que je pense que c'est quelque chose qui façonne aussi l'idée que tu te fais d'un univers, enfin en tout cas pour moi. Et là clairement c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au départ. J'ai mis quelques jours avant d'arriver à dépasser les quelques premières pages, et après je me suis laissé agréablement surprendre par le bagan et par l'ensemble de ce qu'ils avaient fait.
D'accord. Très bien, merci Yannick.
Merci Yannick.
Bon, eh bien, c'est à moi de vous parler de Westburg. Donc, Westburg, qui est un jeu qui n'est pas encore sorti, puisqu'il est toujours en préparation, mais Cédric Ferrand me l'a envoyé.
La chance, je l'ai lu aussi.
Petit vénard.
Oh.
Je crois que je vais me le faire prêter. Je crois.
Oui, tu voulais pas qu'on le lise pour préparer l'émission.
Je vais pouvoir te torturer alors. Vas-y.
Donc le jeu Westburg est tiré du roman éponyme qui est paru chez les éditions des Moutons Électriques.
Qu'on vous recommande chaleureusement.
Ah oui,
ouais,
tout à fait.
J'ai vraiment adoré.
Ah ouais,
et qui sortira
vraiment
en petit format en 2013 chez Folio SF.
Waouh,
dis donc,
la classe.
Ouais.
Là, il y a de l'upgrade. Hein.
Et en e-book aussi, je crois, non
et en...
Il est déjà sorti en e-pub, je crois. Il est sorti chez les Moutons, chez les Moutons Électriques, il est sorti en e-pub. Là.
D'accord.
Ah ouais,
c'est ce qu'ils disent, mais moi, je ne l'ai pas trouvé sur leur site.
Bon, d'accord. Bon, en tout cas, il doit sortir.
Ouais. Bref.
En tout cas, il circule.
Je sais pas.
Donc, le jeu de rôle, lui, sortira chez les 12 singes à une date pas encore très connue, mais c'est dû incessamment sous peu. Donc c'est un coffret de qui coûtera 29€ et qui contiendra 3 livrets de 32 pages et un écran.
C'est pas très cher.
Donc c'est à la fois un bouquin, enfin à la fois un jeu de rôle qui est pas cher et qui est vraiment conçu pour y jouer et pas que pour le lire.
Mais enfin tous les jeux de rôle sont faits pour y jouer, je vois pas ce que tu veux dire par là.
Alors moi j'ai un argument non.
OK.
Non mais j'en achète plein, j'en ai plein moi ma bibliothèque des jeux à lire.
Des jeux à lire et pas à jouer.
Donc là c'est un jeu à jouer.
Ces trois livrets en question, donc il y aura un livret de règles avec qui contient une adaptation du Free Universal RPG de Nathan Russell, qui est un système dans lequel les personnages sont décrits avec six traits de personnalités qui sont choisis librement. Donc, alors il y a pas mal d'exemples qui sont donnés et ça donne une certaine saveur en fait au personnage. Donc tu peux te retrouver avec des traits du genre trop bon, trop con,
oui, oui.
Ou un sou est un sou, ou gueule d'ange, ou tu as comme ça pas mal de définitions qui permettent de typer vraiment ton personnage. Et ensuite, pour résoudre une action, en fait, c'est assez simple. Il y a des D6 à lancer. Et on finira par obtenir un résultat parmi 6. Donc, sur un D6. C'est-à-dire, c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure.
Avec tes enfants de 6 et 8 ans.
Voilà. Oui, c'est-à-dire, avec les résultats non et, non, non mais, oui et, oui et. Alors, non et, c'est t'as merdé et ça va encore plus merder.
Et tu vas prendre cher.
Non, c'est juste t'as merdé. Non, mais c'est t'as merdé, mais t'as de la chance dans ton malheur. Ouais, bah oui, mais ça. Tu arrives à faire ton action, mais ça te coûte quelque chose. Ou t'y arrives, ou alors t'y arrives et tu obtiens un avantage en plus. Donc, dans ce livret, il y a également tout le contexte qui concerne directement les personnages, c'est-à-dire le boulot de soldat, ses missions.
De membres du guet. Pour resituer quand même Wasburg, ouais. Ceux qui ne l'ont pas lu.
C'est vrai que j'ai pas décrit, effectivement.
Wasburg, en fait, c'est une ville médiévale qui est au croisement entre, on va dire, deux pays. Si vous voulez, c'est Alamarja, donc c'est le Alamarja médiéval. C'est une cité où tout est en niveau de gris. Il y a des enflures de partout. Les gens veulent survivre à leur façon. Ils sont prêts à tous les coups. Et au milieu de tout ça, vous avez le guet qui est là pour assurer la paix sociale, on va dire. Ils vont s'arranger pour que ça fasse pas trop de vagues.
Voilà.
Parce qu'il faut pas que ça remonte trop haut. Donc ils ont un boulot de quartier.
Ça remue la merde.
Voilà. Ils ont un boulot de quartier, ils ont pas beaucoup de moyens, ils sont pas forcément appuyés, il y a des magouilles à tous les niveaux. Et donc c'est vraiment donc dans le bouquin, vous suivez différents personnages, vous croisez énormément de personnages, il leur arrive plein de trucs, vous les perdez à un endroit, reviennent
c'est,
là.
C'est surtout ce qui est bien, c'est surtout des personnages de la rue en fait,
c'est vraiment situé au niveau de la rue. Et ce qui est important à situer, c'est un univers médiéval. J'ai pas dit médiéval fantastique parce que, en fait, la magie, elle s'est tarie. Et donc, les anciens magiers, les magiciens de l'époque,
qui dirigeaient la ville.
Voilà, qui dirigeaient tout, qui étaient au sommet de la société. Maintenant, ils font la manche. Ils sont plus là.
Le dernier magier qui dirigeait la ville. Est mort dans l'explosion de la tour de magie qui la dominait. Depuis, il y a tous les seconds couteaux qui tournaient autour de ce magir qui se regardent en chien de faïence pour savoir qui est-ce qui aura la plus grosse part du gâteau et qui dirigera la ville.
Oui, parce que c'est une ville dirigée par évidemment des puissants, une sorte de conseil et tout ce que vous voulez, mais il y a un bourgmestre, donc un maire au-dessus de tout ça. Et le guet, en fait, c'est eux qui s'occupent de la merde au quotidien, oui. Et qui sont tiraillés. C'est un peu. Voilà, c'est pour moi, si je mettais un parallèle, je mettrais sur une série, c'est un peu le sur-écoute, si vous voulez. The Wire, c'est un peu la série. Où vous jouez les flics qui n'ont pas de moyens, qui ont des galères dans tous les sens, des trucs énormes qui se passent, sont dans la merde et ils restent dans la merde et vous jouez un de ces mecs.
Voilà, c'est exactement moi le pitch qui m'a. On me l'a vendu comme ça et moi c'est exactement ce qui m'a.
Mais pour moi c'est The Wire, mais dans un univers qui ressemblerait plus en termes de magouilles et de machin à un potentiel d'Alamarja, donc de conspiration over the edge en anglais. Mm. Pour moi il y a vraiment ce potentiel. Pour moi il y a vraiment du potentiel, c'est pas. il y a ce potentiel là pour moi. Moi je vois vraiment du
Et alors après t'allais peut-être y venir, mais il me semble que en tout cas dans les règles de base c'est prévu justement pour jouer que des mecs du gay. Moi ce qui m'a, bon, au début je trouvais ça un peu dommage parce que du coup on peut pas faire de voleur ou tout comme ça, mais finalement je pense que c'est déjà assez riche pour sans compter que les gardes en général viennent eux-mêmes de milieux sociaux pas forcément
viennent de tous les autres. Un gardoche, ça peut être un noble,
ça peut être n'importe quel horizon.
C'est ça. Ça peut être,
donc tu peux avoir dans ton groupe de perso, ils sont tous des gardes, mais t'as, voilà, comme tu dis, le noble qui vient faire ses classes, le mec qui était voleur, on lui a dit c'est ça ou la pendaison, enfin voilà, donc ouais, ça peut quand même permettre des choses assez intéressantes, je pense.
Alors pour reprendre un petit peu dans le livret en question, il y a tout sur le boulot de soldat que doit faire le
gardoche
au quotidien. Donc ces missions, comment est-ce qu'ils traitent avec les différentes catégories de population de la cité, donc les bourgeois, les différents grades de la hiérarchie de la garde, et justement la plèbe, les miséreux et autres, et également tout ce qui est tradition de la garde. Bref, tout ce qui est bien pour se sentir bien dans sa côte de maille, tu vois.
Ouais. Mais ce qui est parlant, moi je trouve, dans Westworld, ce qui m'avait beaucoup fait accrocher, c'est que c'est un univers où l'auteur a insufflé beaucoup d'argot, et un argot très fleuri, très rigolo,
chantant,
vraiment
très
chantant.
Et ça se retrouve un peu dans le jeu de rôle, ça.
Oui, notamment dans les traits, justement. Voilà. Quand tu choisis tes traits, les exemples qui sont donnés sont extrêmement savoureux.
En fait, l'auteur est un passionné de tout type d'argot que vous pouvez imaginer. Et depuis des années, il collectionnait tous ces termes. Et dans le roman de Westburg, c'est vraiment ça. C'est un florilège d'argot qui chante à l'oreille, vraiment. Mm. Et qui, à l'inverse de, si vous voyez Planescape, quand Planescape pour Donjon est sorti, où à la traduction, il y avait un argot dès l'époque victorienne, de ce que vous voulez, qui pour moi rentrait vraiment pas dans ma tête. Ça ne s'imprimait pas. Ouais. Et ben c'est exactement l'inverse. C'est un argot qui est proche de notre français à nous,
mais
qui est
langage familier, un peu déformé.
Ça s'intègre naturellement et ça donne vraiment une tonalité. Et c'est vraiment au niveau de l'univers, c'est-à-dire c'est un univers où vous êtes dans la merde, dans la fange, et vous êtes un tout petit peu au-dessus de la fange. Et c'est un langage qui va avec. C'est parfait. Quoi. Moi, de mon point de vue. Hein.
Alors dans les deux autres livrets, il y a également un guide de la cité que Cédric Ferrand a coécrit avec Philippe Fenot. Et qui s'inspire des livrets qu'on distribuait aux soldats américains avant qu'ils débarquent en France.
Excellent.
Donc c'est un livret qui décrit sommairement la ville, quartier par quartier, avec le type de problèmes qu'on rencontre dans le coin. Et ce livret est remis à la hiérarchie, par la hiérarchie à chaque nouveau garde. En général, c'est un héritage, c'est-à-dire ça se garde d'une génération sur l'autre.
Il y a des notes.
Et là, il a un exemplaire qui a été annoté par un ancien.
Ça, c'est bien, ça.
Et donc il y a un avis différent, un autre regard sur la ville.
Ça me fait penser à Paranoia, où tu as la version officielle avec des notes non c'est n'importe quoi, on vous ment, etc.
Ouais, t'avais la même chose dans Cyberpunk aussi, dans Shadowrun.
Mais c'est un vieux principe, mais qui marche toujours très bien, je trouve.
Donc les commentaires en question, ils sont plutôt acides, et ça vient compléter ou infirmer ce qui est écrit, et donc ça
il y avait dans L5R aussi, avec Ryoko Hari, vous aviez mais c'est vrai que c'est sympa, ça.
Enfin, troisième livret, c'est un scénario. Donc, un scénario bac à sable, donc qu'il a coécrit avec Tristan Lhomme. Et qui débute justement à la fin de la formation de gardoche des PJ.
Donc on va voir si ça va donner dans de la sortie de Police Academy, ou si ça. J'y crois pas deux secondes, hein, mais non, c'est une boutade. J'y crois pas deux secondes, mais je pense que ça va être bien crade. J'ai hâte de voir le scénario.
Est-ce que c'est du cops médiéval? Est-ce que c'est moins sérieux? Est-ce que c'est
moi je le trouve.
Faire des trucs très sérieux.
Westburg, moi je le trouve assez sérieux, en fait, dans son approche.
Je pense que
tu peux faire des trucs. Moi, ce que j'aime bien comme approche, et que j'avais commencé à faire pour moi-même, c'était faire du pseudo-comique. C'est-à-dire faire des trucs qui sont comiques en surface, mais qui sont extrêmement durs et profonds. enfin qui sont faits, ouais, pour parler de choses qui sont dures et profondes. Quand
Car
tu parles de la France,
des Corses, il y a un petit cœur qui saigne, c'est ça?
Non, bah, moi non.
Non, il y a aussi un truc, mais j'aime bien présenter ça. Il y a une différence entre le fait que ce soit comique pour les personnages et comique pour les joueurs. Ouais. C'est-à-dire que tu peux très bien faire des scénarios dans lequel c'est ça en général, de façon que ce soit tu vois bien les flics ou bon, tu joues rarement un groupe de médecins dans un jeu de rôle, mais les médecins dans la vraie vie, je veux dire, c'est pareil.
De trauma team,
ils font face à des trucs très sérieux, mais ils déconnent pour pouvoir gérer le truc. Et c'est pas du tout la même chose quand c'est les personnages qui déconnent entre eux de situations in-game que les joueurs qui font un jeu de mots parce que il y a le nom d'un PNJ qui rime avec une partie intime, ouais, ou des choses comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Donc, oui, mais ça c'est valable dans
n'importe quel jeu. Je te mets au défi de jouer à Cat, le jeu de chat de John Wick, sans que tes joueurs très rapidement se mettent à faire des jeux de mots autour de chat, donc Shabada, Chamallow. Tu te retrouves pendant toute la partie à un moment avec des jeux de mots. C'est inévitable pour n'importe quel jeu avec n'importe quel joueur.
C'est vrai que dans du police procédural, oui, t'as souvent la scène des inspecteurs. Alors bon, moi je fais jouer un police procédural contemporain.
Les experts,
c'est vraiment, tu vois, ils sont là en train de prendre leur café, en train de discuter de photos de meurtre et tout, donc ils font des blagues, mais c'est les personnages qui, ouais, font les blagues. Du coup, tu restes vraiment dans l'ambiance, et là, à mon avis, dans un contexte médiéval avec de la fange et tout, c'est exactement pareil, donc ça peut très très bien marcher. Ouais.
Oui, faut bien voir aussi que les méthodes d'enquête sont pas, voilà, en sont plus, pas les mêmes du tout, quoi.
Oui, là, tu tapes et tu questionnes après.
Ouais, voilà, mais en fait, tu n'as aucun... Finalement, tout ce qui est scientifique, en fait, est remplacé par le
gourdin,
le côté social, en fait.
Ah oui.
C'est interroger les gens. Après, avec plus ou moins de menaces, mais c'est le fait de leur parler, parce que les.
Oui. Puis avec quel levier tu as sur eux, parce que ouais, voilà, tu vas aller interroger un bourgeois et que t'as un gardoche. Un bourgeois qui est proche des sommets, tu fais comment?
Qui connaît très bien ton chef, donc voilà.
Voilà ton échevin.
Il y a toujours moyen de le piéger en mort avec une elfe, enfin un truc.
Il y a pas de nains, il y a pas d'elfes, c'est que des humains.
Oui, c'est
précision,
clair.
j'ai pas
putain,
dit.
Je me casse.
Je crois qu'on aura compris que voilà, c'est un jeu. Je pense qu'on attend.
C'est un jeu qui. Enfin,
moi personnellement, en tout cas.
À la lecture, moi j'ai été vraiment très enthousiasmé par juste le bouquin de règles avec le petit monde du Gardoche. Il est vraiment excellent. Le guide de la cité, à la limite, on en a presque pas besoin si on a
suffisamment de bouteilles, mais il faut avoir lu le bouquin. Mais le problème, je dirais, dans le bouquin,
le guide
c'est
de la
que...
cité, il est juste là pour donner des pistes de contexte.
Je pense que le guide de la cité, il va être utile parce que dans le bouquin, il y a tellement de choses qui se passent.
Non, et puis c'est bien de fournir quelque chose à des gens qui n'ont pas forcément lu le bouquin aussi.
Tout à fait. Je pense que le public principal, quand même, à la base, des gens qui sont susceptibles de l'acheter, ces gens qui ont quand même au moins entendu parler du bouquin, mais le bouquin,
moi,
il se passe tellement
pas
de choses dedans que c'est pas toujours évident de pouvoir te dire qu'est-ce que je vais faire jouer exactement.
Mais je suis pas d'accord avec toi.
Moi je crois qu'il faudrait le sortir vraiment, parce que moi qui ai pas lu le bouquin mais qui en ai beaucoup entendu parler, pour plein de raisons,
bah voilà, tu feras un parfait sujet test.
Ouais, je ferai un bon sujet test, parce que ce que vous me décrivez notamment avec le guide de la cité, moi ça me fait rêver, ça fait rêver dans le sens où j'ai envie d'y jouer, tu vois, je me dis ah tiens, j'ai un effet waouh que j'avais pas par exemple avec Deadlands. Là il y a un truc que je me dis ah tiens, ça peut être intéressant, ça j'ai envie de le voir, comment est-ce qu'il a fait tel truc, parce que à chaque fois que je lis un jeu de toute façon c'est pour en piquer des trucs, et je me dis tiens, ça pourrait être intéressant de voir comment ça a été fait. Et tel que tu l'écris, j'ai envie.
Bah, tu vois, moi, je suis un gros fan de médiéval, de campagne urbaine médiévale. Mm-hmm. Donc, j'ai fait jouer, entre autres, Ptolus pendant très longtemps, mm-hmm, qui, pour moi, a été un super bouquin, super intéressant. Et j'ai autant envie... quand j'ai lu le beau roman, je me suis dit, oh, putain, j'ai trop envie de faire jouer Westberg. Et quand on a appris que ça allait sortir en jeu de rôle, j'ai fait yes, parce que ça, c'est évident que je vais le faire jouer. Ouais. C'est obligé. Pour moi, c'est le tout bonheur, quoi. Le médiéval urbain, c'est...
Ouais, moi aussi j'aime bien.
Et puis vu comment c'est pourri comme ville, il s'y passe que des trucs de crasse, d'enculasse, de machin, c'est que du bonheur.
Mais moi qui suis pas du tout médiéval, pour le coup c'est plutôt le côté
très médiéval urbain,
enquête et tout qui me plaît, et le côté urbain. Enfin, je pense que à mon avis vraiment il y a du gros potentiel, quoi.
Pratchett qui fait beaucoup de médiéval urbain avec Gage, justement.
Je pense que c'est une des inspirations en plus.
Oui, c'est une des inspirations du livre, en tout cas.
Non, pas du tout, je pense qu'il l'a jamais lu d'ailleurs.
C'est possible,
il l'a écrit lui-même. Lui-même.
Tous les bouquins du Gay sont vraiment excellents.
Mais tu vois, à l'inverse, moi j'irais peut-être pas forcément dans ton sens, dans le sens de grosses enquêtes de police, tu vois. Pour moi, c'est pas du cops en made fan, parce que c'est plein de petits trucs, et c'est au contraire, c'est vraiment toute la vie autour de d'éventuellement une enquête. Mais le plus important, bon, c'est pas l'enquête en elle-même, parce que l'enquête, elle va peut-être durer peu de temps.
C'est aussi l'égrenage de
la exactement vie au quotidien, comment les choses se passent avec
exactement comme dans le hack de Smallville que je fais jouer. Hop, deuxième allusion.
Ça y est, il l'a casé.
Allez, c'est parti.
C'est bon, bah je peux partir. Hein, c'est bon.
Et ton Smallville The Wire.
Voilà, parce que je voilà, pour faire une petite parenthèse, voilà, je fais jouer un Smallville The Wire donc contemporain, et c'est vraiment la même chose. C'est très narrativiste, donc t'as des enquêtes, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est plutôt la vie des personnages, comment ils gèrent.
C'est le principe de base de Smallville voilà, aussi, hein, quelque part. Hein.
Et là, pour c'est le jeu pour des moi, relations. Ce que tu décris dans Westberg, ça a l'air d'être exactement ça, des enquêtes qui finalement sont pas si importantes, ou alors qui servent à montrer un petit peu les rivalités politiques qui existent dans la ville, des trucs qui dépassent complètement les persos et dans lesquels ils se retrouvent englués. Enfin bon.
En fait, la ville a sa vie propre, en fait. Les gardoches ne font que passer dans cette ville, et comme les habitants. Le vrai sujet de Westberg, c'est la ville en elle-même. Mmh. C'est elle qui est le personnage de Westberg. C'est pas les personnages. Ils vont mourir, ils vont passer, il va se passer des choses.
Ils sont simples témoins.
Exactement.
Tout à fait.
C'est vraiment ça.
Ce qui est exactement dans le livre, d'ailleurs. C'est vraiment
ouais,
ça, quoi.
Tout à fait. Je me suis pas répandu sur le système. Donc la base est celle que j'ai donnée tout à l'heure. Après, le nombre de dés que l'on lance dépend de la difficulté de l'action qu'on va faire. Donc on jette jusqu'à 3 dés et en fonction de la situation, soit on en jette 3 et on garde le plus mauvais, ou on peut en jeter 3 et garder... Enfin non, en jeter 2, pardon, et garder ouais. le plus mauvais, ou en jeter 2 et garder le meilleur, ou juste un dé. Enfin,
il me semble que l'auteur avait décrit un peu son jeu sur Casus en disant que lui, les règles, ça le faisait chier, et donc qu'il mettait les règles les plus simples possibles. Parce que...
Cédric est un fervent opposant à Warhammer 3ème édition. Donc, je salue.
C'est votre point de contentieux.
Il y en a de très nombreux, parce que c'est quelqu'un d'absolument pas recommandable. Je veux dire, je lui en veux énormément d'avoir dépensé l'argent pour cet excellent bouquin de Westberg. Je lui en voudrais toute ma vie. Il s'est jamais caché que voilà les règles.
Ce qui est personnellement encore une fois
l'histoire qui prime pour
moi ouais. une autre incitation à l'achat, parce que c'est exactement la même chose. Les règles, moi ça me moins il y en a mieux.
Ce que j'apprécie surtout, c'est que tout soit traité sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire que ce soit le combat social ou le combat avec une épée.
Ouais, j'apprécie aussi.
Ou tous les types d'actions, c'est tout le temps géré de la même manière et il n'y a que les joueurs qui lancent les dés.
Mais ce débat
ça c'est bien ça.
Ce débat il est bien, mais bon, d'un autre côté, vous pouvez très bien pas apprécier les règles
et faire jouer
au minimum,
quand même,
mais si vos joueurs ils adorent les règles, vous êtes comme des cons, vous aurez pas le choix, vous serez forcé de prendre un jeu avec des règles, parce que ben oui,
et puis après on sait bien que les rôlistes, beaucoup de rôlistes diront bon, moi je vais y faire jouer mais avec les règles de machin,
oui bien sûr,
moi je vais prendre les règles mais en fait je vais jouer à un truc, enfin
ouais, au final c'est pas toujours une bonne idée. Autant comme faire ton propre univers avec tes propres règles, t'as finalement gagné beaucoup plus de temps.
Je suis d'accord, mais... donc un jeu vraiment que bon, que on l'attend mais vaguement, quoi, franchement sans plus, quoi.
Sinon, au sujet de la gamme elle-même, ils veulent publier un livret trimestriel de 32 pages qui contiendra que du scénario. Voilà, c'est l'objectif, c'est faire ça, c'est publier du scénario.
Et je crois savoir que Cédric veut absolument à chaque fois écrire à quatre mains. Donc ouais. À chaque fois l'écrire avec quelqu'un.
Avec quelqu'un d'autre avec qui il aura des affinités. Ouais. Voilà. Donc, ça dépendra du sujet. Bon, ben, moi j'ai terminé là-dessus. Si vous avez d'autres questions, sujet.
Non, ma foi,
ok. Bon, eh bien, je pense qu'on va passer à Leverage.
Donc, passons à Leverage, comme tu disais, parce qu'il faut bien qu'il y ait les gens qui travaillent aussi. Donc, on a bien vu que Com n'a rien glandé, clairement.
Quoi ?
Non, je lui ai fait écouter un podcast.
Ah ouais, attends, 2h30, hein.
Ah ouais, quand même. Ouais,
c'est travail
bon,
en amont.
Excuse-moi, d'accord. Non, mais je dis rien pour Yannick parce qu'il a vraiment bossé. Ça,
2h30 d'écoute, je suis sans parler 10 minutes. Hein.
Il a fait le boulot pour toi et il a lu Deadlands Reloaded, donc bravo.
Attends, moi.
Salaud.
Règlement de compte, ok, Coral.
Moi, je veux bien faire des critiques, on me prête aucun bouquin.
Attends, tu vas voir, toi. J'ai quelques bouses que je vais t'obliger à lire.
Je vais regretter ce que je vais dire. Bon, en tout cas, c'est à toi de parler.
Ouais, bon, allez, on va y aller. Donc, Leverage. C'est un jeu de rôle, mais avant d'être un jeu de rôle, c'est une série. Donc vous connaissez pas forcément cette série.
Pas du tout.
Voilà, je m'en doutais. Donc le principe de base, vous connaissez Ocean's Eleven, Oui. Une bande d'experts qui s'associent pour aller casser du butin. Grosso modo, dans Leverage, vous retrouvez 5 personnages qui sont chacun des experts dans leur domaine, avec des rôles bien définis. Donc, vous avez le gros cogneur, l'escroc, l'éminence grise, le pirate informatique et l'acrobate voleuse qui perce les coffres et tout ce que vous voulez.
En fait, c'est un peu l'agence touriste.
C'est exactement ça, c'est un peu l'agence touriste. C'est un peu l'agence touriste, si vous voulez. Le pitch de base, c'est vrai que ça peut faire penser à l'agence touriste, mais c'est un peu différent, juste à un petit degré. En grosso modo, il y a un client qui vient les voir, comme dans l'agence touriste. Ils ont un problème, parce que il y a quelqu'un qui est méchant. Une grande corpo, un machin. Ils sont méchants. Mais vraiment méchants, quoi. Et eux, ces gens-là, à force, dans la société un petit peu alternative, eux sont des experts qui étaient des crapules, chacun les uns comme les autres. Peut-être pas l'éminence grise, quoique. Grosso modo, ils associent leurs services pour aider les gens à rétablir la justice de tout ça.
Oh. Et donc, est-ce qu'ils sont accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis?
Non, justement.
Quoi?
Est-ce que cette fois c'est personnel?
Ils ne sont pas accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Ils sont chacun dans leur genre accusés de multiples crimes qu'ils ont commis. Mais ils n'ont jamais été pris.
D'accord.
Voilà, donc c'est ils ont chacun leur spécialité.
Tout le côté donc, Ocean's Eleven. Ouais.
Donc voilà, donc c'est pour ça que ça fait penser à Ocean's Eleven et à l'agence touriste, à la fois les deux. Chaque épisode, grosso modo, vous avez un client qui vient les voir parce qu'il y a une cible qui leur pose problème. Eux, ils vont monter un plan et ils vont essayer de régler les choses et de rétablir les choses. Tout au long de la série. Indépendamment de ce montage-là, par rapport à l'agence touriste, vous avez des flashbacks tout au long de la série qui se précisent et qui, au fur et à mesure, vous décrivent. Alors, il y a les flashbacks sur chacun des personnages qui vous décrivent un peu qui ils sont. Vous voyez petite note par petite note, saison par saison, vous découvrez un peu vraiment le fond des personnages. Et en même temps, des flashbacks sur chacun des épisodes où vous arrivez et vous dites « Ah, tiens, il est menacé par un gun !» Et là, vous avez un flashback et là, vous apprenez comment il a réussi à remplacer les balles, les vraies, par des balles à blanc. Donc, il y a à la fois du flashback sur le fond pour creuser les personnages et du flashback dans l'épisode.
Dans l'action.
Ça, pour le coup, c'est la chaîne Sylvain.
Voilà, exactement. Ouais, exactement.
Tout à fait.
Donc, ils sont un peu croisés de tout ça. Donc là, on en est à la 5e saison, si je m'abuse.
Ouais.
Bon, moi, c'est une série dont je suis fan, même si, dans le principe, si vous voulez, la construction des épisodes est toujours pareille. Donc, rapidement, si vous êtes...
C'est un peu répétitif.
C'est répétitif, mais en fait, moi, ce qui m'a fait accrocher à la série, c'est au contraire, le côté répétitif aurait pu me faire fuir, mais c'est le fait des personnages, ni plus ni moins que les personnages, et comment ils les creusent, et à quel point ils ont chacun leur gimmick, c'est ça que j'aime beaucoup.
D'accord.
Bon, donc voilà, vous savez, connaissez la série.
Voilà,
presque. Vas-y.
Je trouve ça intéressant. Donc maintenant, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire sur le jeu.
Le jeu de rôle, donc chez c'est Margaret Weiss, c'est Margaret Weiss Production. Ils ont différents jeux, donc Smallville, le fameux
Marvel.
Jeu de Combe.
Je me suis promis de ne pas le citer pendant ta critique. Donc, je vais plutôt parler de Supernatural.
T'es déjà à 3 points, quoi.
Ou Battlestar Galactica. Là où Smallville est un jeu qui joue vraiment sur les relations dans un univers et énormément sur l'oration. Là, jeu-là, il est vraiment basé sur cette structure de scénario où à chaque fois, c'est une mission. Et c'est basé sur comment creuser les personnages et voir à les découvrir au fur et à mesure. Mmh. Et donc, dans ce jeu-là, vous allez jouer chacun des 5 archétypes. Grosso modo, c'est un jeu qu'on peut jouer autant dans l'univers de la série, qu'on va pouvoir jouer dans Nightcrawler, qu'on va pouvoir jouer dans du cyberpunk. Je dirais dans du contemporain ou dans du Medfan, mais quelque chose où une équipe qui a chacun des talents très différents vont s'associer pour pouvoir faire quelque chose.
Ça décrit pas mal de équipes de jeux de rôle, si je peux me permettre.
On est d'accord. Mais c'est un jeu où c'est collaboratif. On joue pas les uns contre les autres, on joue ensemble. Et c'est parce qu'on est ensemble que ça fait notre force.
Oui.
Donc c'est plus quelque part du donjon que ça va être du vampire. Voilà, pour grossir le trait.
Pas mal, pas mal.
si vous êtes là pour faire des coups de pute à vos camarades, c'est peut-être pas l'idéal. Chaque type de personnage était avant une crapule qui allait entuber quiconque, mais maintenant ils se sont associés pour une bonne cause. Donc vous associez pour une bonne cause. Donc comme je vous l'ai dit...
Ils sont en mission pour le Seigneur.
C'est ça, exactement. Voilà, les Blues Brothers, sauf qu'ils sont 5. Voilà. C'est un jeu où, pour suivre cette règle-là, si vous voulez, vos personnages sont définis par 5 caractéristiques et par 5 rôles. Les caractéristiques et les rôles sont définis avec des dés, des 4, des 6, des 8, des 10, des 12. Et vous allez les répartir. Donc vous allez répartir vos caracs et vous allez répartir vos rôles.
Alors autant les caracs, j'ai une idée de ce que ça peut être, mais qu'est-ce que les rôles?
Agilité, vigilance, intelligence, force, vitalité, volonté.
Mais les rôles...
C'est escroc, pirate informatique, cogneur, éminence grise, quoi, savant, le mec qui va monter les plans, et le voleur.
D'accord.
Donc, ouais, et donc, quand tu vas faire une action, ça va forcément s'inscrire dans un rôle ou dans un...
Attribut plus rôle, et ça va te donner ce que tu vas faire.
D'accord.
Donc, tu vas lancer 2 dés et tu garderas le meilleur. Donc, selon les dés que tu vas avoir, voilà. Et jusque-là, on se dirait, bon, bah, c'est simple. Et en opposition, le MJ va lancer généralement 2 dés. T'as une difficulté, donc on lance, on garde, et on voit en face. Et celui qui fait le meilleur jet, il lance la chose. Je tiens un pistolet face à David, je suis décidé à l'abattre. Lui, c'est un super cogneur de la mort qui tue. Donc lui, il va lancer son au hasard vigilance plus cogneur. Moi, je vais lancer aussi mon vigilance plus cogneur, parce que voilà. Alors, sauf qu'à la différence, c'est Cobalt qui est le joueur. Donc lui, il va lancer son attribut vigilance plus cogneur. Imaginons qu'il a, je sais pas, D10 et D10. Il lance 2 D10, il garde le meilleur score. Et moi, je suis le MJ, je me dis, alors, je vais le définir de deux façons. Ce gars-là, il est pas très bon. Mais c'est un gars assez moyen, mais il a une super arme. Imaginons que je vais lancer un D8 et un D6. Je lance, on compare. Tu fais plus que moi, tu montes, on va dire, l'échéance. Je vais essayer de retenter ma chance quand même. Je vais essayer de relancer et je vais voir si je vais réussir à m'en sortir. Si je fais plus, après, c'est à ton tour de monter. Et puis au bout d'un moment, on peut pas échouer deux fois de suite.
D'accord.
Et donc,
t'as
perdu. Et à partir de là, on voit ce qui se passe.
Ah, c'est une forme d'enchère. Hein.
Voilà, c'est une forme d'enchère. Donc voilà comment ça se passe. À ceci près qu'il y a quand même quelques petites finesses supplémentaires. Donc là, je vais revenir à la définition du personnage parce que vous n'allez pas lancer que 2 dés, vous allez en lancer plus. Pourquoi ? Parce qu'un personnage est défini par son attribut, par son rôle. Il peut avoir éventuellement une spécialité, du genre dans la série, Elliot, c'est un cogneur et il est fan de cuisine. Et donc, vous pourrez avoir une spécialité cuisine, entre parenthèses, cogneur. Donc, il va utiliser son dé de cogneur quand, je sais pas, au hasard, il est dans une cuisine, il y a un combat, il va commencer à choper un couteau. Bah ouais, mais il manie super bien le couteau, il a sa spécialité, donc il va lancer un D6 en plus, tu vois, par exemple.
Je vais te découper comme un vulgaire oignon.
Il a
piège en haute mer.
Voilà, c'est ça, voilà, c'est le missile cuisinier, exactement. Après, il y a des distinctions qui vont, je sais pas, être badass, quoi. La sale gueule, ou ce que vous voulez, au contraire, super belle, ou je ne sais pas. Et donc, vous allez encore avoir des dés, et éventuellement un atout. Tout, généralement, c'est un équipement, quelque chose que vous allez créer.
Bah, le hachoir en question, pour avoir un dé à lui.
Exactement,
c'est celui de ma grand-mère, en fait.
Sauf que cet atout-là, tu peux le créer sur l'instant dans la scène.
D'accord.
Justement, venons-en à la suite de la démonstration. Donc, on va lancer des dés et invariablement, à un moment ou un autre, il va se passer qu'il y a des 1 qui vont arriver sur la table. C'est 1, tu peux très bien réussir ton action. Au final, tu m'as battu, tu as fait un score supérieur au moins à moi, tu as réussi à maîtriser mon arme et voilà, à faire régler. Sauf que tu as fait un 1 sur ton dé. Ce 1, le maître de jeu a le choix de se dire, tiens, je le prends et il va se passer une complication. En échange, je te donne un point d'intrigue, un plot point. C'est une denrée très utile qui va te permettre d'interagir avec le jeu.
D'accord.
Donc ça, c'est dans l'autre sens. Si c'est moi qui ai réussi ou quoi, moi j'ai fait un 1, le MJ fait un 1, de la même façon, tu as le choix de prendre cette opportunité qui se présente et en échange, tu me donnes un point d'intrigue. Ces points d'intrigue, c'est la denrée qu'on va utiliser pendant tout le jeu. Elle va permettre, avec un point d'intrigue, on peut, sur un instant, sur une scène, se dire, tiens, ah oui, mais je t'avais pas dit, j'ai un pistolet caché dans ma chaussette. Et hop, j'utilise un point d'intrigue et j'ai un atout à D6.
D'accord.
Voilà. Je vais utiliser 2 points d'intrigue que j'ai. Et au lieu qu'il soit efficace, cet atout, pendant cette scène, il va être efficace pendant toute la partie. Ou quoi, je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais pouvoir, avec des points d'intrigue, relancer un dé. J'ai fait une action, ah ouais, non, j'ai pas assez. Ah, j'ai lancé un D6 supplémentaire, je dépense. C'est vraiment une denrée qui va... Les jauges vont monter des deux côtés. Le MJ va se retrouver avec des points d'intrigue. Et en échange de quoi, il va t'arriver des opportunités. Moi, je vais me retrouver avec... Tu vas te retrouver avec des points d'intrigue. Et en échange, je vais te mettre des complications dans la tête. Mais, ce qui est important à préciser, parce que c'est pas toujours évidemment bien clair quand on le lit au début, c'est que libre au MJ, au joueur, de ne pas prendre cette opportunité ou de ne pas prendre cette complication. Je fais un, tu dis non, non. Non, ça m'intéresse pas. Et donc, je récupère pas de points d'intrigue. Mais toi, tu fais un 1, j'ai dit, ah, est-ce que j'ai... Ah, il y a combien de points d'intrigue, là? Ah, ouais, j'en ai combien? Ouais, non, je vais pas lui mettre une complication.
D'accord.
Donc, libre à toi de faire un peu comme tu veux. Puis, il faut voir par rapport au scénar dans son ensemble, de toute façon. Mais du coup, c'est assez dynamique et les joueurs regardent vraiment ce qui se passe à la table et puis, soudainement, vont sortir de derrière leur manche quelque chose. Il y a 2 autres choses qui se rajoutent. C'est comme dans la série, je vous ai dit, il y a des flashbacks. Flashback dans le scénario, flashback sur les personnages, et bien de la même façon, il y a une mécanique avec à base de points d'intrigue pour pouvoir justement lancer ces petits flashbacks. Sauf que ça coûte plus cher si c'est vous qui le lancez, mais si c'est un joueur qui dit « Eh au fait, rappelle-toi, je t'avais filé l'objet là, machin !» Et hop, hop, point d'intrigue, et tu lances ton flashback dans le scénario plus facilement. Si personne te lance quoi que ce soit, t'es dans la merde. Bon, ben, bah, tu vas lancer, collaboration, mais ça va te coûter, voilà. Mais ça va te coûter plus cher. Voilà, c'est comme ça.
D'où l'idée de collaboration.
Donc. Exactement, exactement. Et donc, dans la narration, il y a vraiment une participation assez active à la table et ces jauges de points d'intrigue qui passent leur temps à bouger dans tous les sens et qui permettent de faire des relances. Mmh. Pour le MJ, si vous voulez, de la même façon que vous êtes, le personnage est défini avec des rôles et des distinctions, tout ça, le MJ, lui, il a toujours au moins deux dés à définir. Alors, si c'est un peu comme les gens qui ont écrit derrière, c'est Rob Donahue, c'est les gars qui faisaient partie d'Evil Hat, hein, grosso modo, les gens qui ont fait Spirit of the Century et d'autres.
D'accord.
Qui ont participé à ce jeu-là. Donc, si vous voulez, tout peut être défini par des dés. La difficulté, ça va de D4 à D12. Voilà, c'est une forteresse super protégée informatiquement, machin. Elle va peut-être avoir un D10 ou un D12. Et après, à l'intérieur, elle a peut-être des gardes qui sont moucraves et qui ont D4 ou D6. Et ben, le MJ lancera D4 et D12, par exemple, je sais pas. Donc, le MJ, c'est facile parce qu'il a rien, il a pas à créer ses PNJ à l'avance. Il va les créer dans son idée. Il va leur donner un trait, machin. Et très rapidement, il peut vraiment, sur l'instant, il peut se concentrer sur son scénario, rebondir, rajouter des choses et faire en sorte que ça se passe bien. Dans le bouquin de base, ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, la structure des scénarios de Leverage est décortiquée, donc c'est pas une structure en 3 actes mais en 5. On présente le client qui a eu un problème avec sa cible, après il vient voir les voir, ils vont commencer à monter un plan, il va y avoir une première complication, ils vont continuer, une deuxième complication et après il y aura le dénouement.
D'accord. Le scénario est pré-structuré.
Pré-structuré, c'est une structure
en fait,
à Leverage.
En fait, c'est, quand tu dis la structure, c'est la structure de la série. Quoi.
Exactement, c'est la structure de la série, ça fonctionne très bien. Il t'explique vraiment tout, c'est-à-dire que dans le bouquin de base, en dehors des résumés d'épisodes, je crois, des deux premières saisons, il t'explique vraiment tous les ressorts. Et t'as une boîte à outils dedans où tu peux monter avec des jets de dés à la limite ton scénar très rapidement, savoir définir quelques traits importants. Ils vont t'expliquer comment créer très simplement des personnages. Alors, la cible, évidemment, les gens qui vont être autour de lui, des choses comme ça, tout plein de ressorts, mais tout est vraiment décrit par le menu. Et donc, j'ai évidemment pas parlé d'un truc qui est important, c'est ces fameuses distinctions qu'ont les personnages, ça va être, grosso modo, ils vont aussi avoir des super pouvoirs, parce qu'ils sont très bons dans leur domaine, et donc, par rôle, il y a des pouvoirs spéciaux qui s'activent souvent par des points d'intrigue.
Tu peux nous donner un exemple?
Oui, je peux. Je vais t'en sortir une parce que sinon ça va.
Le hacker, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire de spécial?
Qu'est-ce qu'il va te faire Attends, excuse-moi. Est-ce qu'il faut que je prenne le hacker? Ça sera pas mal. Grosso modo, un hacker qui est spécialisé à être au-dessus de ton épaule. Donc, ou genre, tu vois, il va regarder quelqu'un qui utilise un téléphone ou un clavier, il va retenir tout ce qui s'est passé, il sera exactement capable de refaire la même chose, tu vois.
La même séquence.
Voilà, ou... le même truc à l'oreille, tu vois, machin. Pareil, tu vois, pour l'escroc, elle peut être spécialiste du déguisement, dans certains cas, ça va lui permettre de... Le cogneur, ça va être le gars, tout sur lui, c'est une arme potentielle, donc ça va lui permettre de faire des trucs. Ou un œil tactique, ou au contraire, un œil où ils vont... il peut mesurer la menace que représente la personne en face de lui. Chacun, ils ont leur truc. Donc, dans le livre de base, il y en a un certain nombre qui sont décrites. Il y a deux suppléments qui sont sortis après derrière, qui décrivent chacune, je crois, il y en a un qui c'est deux rôles et l'autre, c'est les trois autres. Voilà. Ce qui est important à préciser, quand même, c'est qu'il y a une répartition de dés sur les dés. Vous avez cinq rôles. Tout le monde est bon dans un domaine, dans plusieurs domaines. Ils ont tous un dé dans chacun des cinq rôles. Sauf que, généralement, ils ont des 10 dans l'un, des 8, des 8, des 6, des 6 et des 4. Autant vous dire, un des 4, c'est pas bon parce que vous avez grande chance de faire un 1 avec un des 4. Et quand il vous arrive une complication, le MJ, par exemple, il peut vous faire jeter un D4 en plus à votre jet de dés, par exemple. Bref, cette mécanique, sur le papier, elle a l'air très simple. Elle est quand même relativement simple, mais elle est super riche. Et moi, je l'ai fait jouer donc, sur un week-end complet sur une partie de Cyberpunk, notamment avec des joueurs de différents horizons, du hardcore minimaxer gamer... aux joueurs qui les règles, mais ils n'ont rien à battre et ça ne l'intéresse pas. Oui. Ils ont réussi à s'en sortir dans tous les cas. Celui qui les règles n'intéresse pas, il a mis un petit peu de temps pour l'histoire des points d'intrigue, voir comment essayer de rebondir pour essayer de faire en sorte que. Mais au final, ça s'est super bien passé. Il y a un truc que j'ai tué j'ai oublié de vous dire dans ce jeu-là, c'est que la première partie, généralement, c'est le boulot de recrutement. C'est la première mission que vous avez fait ensemble. Et donc, vous faites des créations de persos qui sont ultra limitées. On définit votre rôle primaire et votre rôle secondaire.
Ouais, tu mettais pour
au
fur et à mesure.
Voilà, et après,
ça vient dans les flashbacks,
ça permet.
Dans les...
Voilà. Ouais. C'est des scènes fortes. Alors, c'est pas un scénar ultra développé. Ça va être un scénar court. D'ailleurs, ils ont sorti un quick start, Leverage, où il y a un scénar comme ça. Uh-huh. Et ça vous permet de de jouer et de monter un peu les choses et après définir. Enfin, c'est ce que j'avais fait sur la partie du tournoi de cette rencontre sur le week-end complet. La première partie du scénar, c'était la première scène d'intro. On l'a fait jouer comme ça. Et après, derrière, ça a permis de creuser les personnages.
D'accord. Oui, donc finalement, les rebondissements, on les fait à la volée. On crée sur l'instant.
À la fin du recruitment job, ouais. À la fin de cette première mission, ton personnage doit être complet.
D'accord.
Au début,
okay.
Il est en mode allégé. À la fin de cette mission, il est en mode complet.
D'accord.
Et
d'accord.
Après, il y a de l'expérience. Il n'y a pas de niveau. Ah oui, important à préciser. C'est pas un jeu à niveau. Uh-huh. C'est un jeu où il y a de l'expérience qui vous permet d'avoir des choses, qui va vous permettre de, par exemple, je sais pas, des objets qui deviennent un peu plus définitifs ou des traits que vous aviez qui sont pas forcément positifs. Hein. Vous pouvez être très bien alcoolique. Hein. Mais l'alcoolique, il peut être positif et négatif. Dans certains cas, ça peut vous permettre d'ignorer la douleur, je sais pas. Et dans l'autre, ça va pas vous aider dans la société. Donc tout est à double. Et selon le cas, vous allez l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Bref, tout est utilisable dans les deux sens. Un alcoolique, voilà, il pourra utiliser, je sais pas, en D6 pour une action où voilà, il a besoin de pas sentir la douleur ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, quand il a besoin d'être en société, il aura un D4 par exemple.
C'est ça les distinctions.
C'est ça, exactement. C'est une des distinctions. Il y a plusieurs types de distinctions, ouais, en fait. Mais ça fait partie des distinctions.
Parce que t'avais la même chose dans Marvel.
Bah, oui, par exemple.
Et dans tout.
Dans Westworld, il y a aussi ce genre de mécanisme pour les traits. C'est-à-dire qu'ils peuvent être interprétés aussi bien en positif qu'en négatif en fonction de la situation.
C'est très intéressant.
De toute façon, c'est le système qui était d'ailleurs déjà dans Over the Edge jadis, un des premiers jeux narrativistes. Ouais. Le principe de voilà, vous avez un trait et ce trait il vous permet de définir assez large. Là, la même façon avec les rôles, c'est très large. Et vous dites qu'est-ce qu'un pirateur informatique sait faire, bon ben voilà, vous allez argumenter auprès du MJ, oh ouais mais non tu veux me faire ça, mais non mais là dans ça serait plutôt, donc ça va être la négociation un peu comme Over the Edge aussi dans certains cas où on se retrouve à négocier avec les joueurs
comme un marchand de tapis pour
en fait dès que t'as des traits tout simplement, dès que t'as des choses qui sont
Spirit of the Century, c'est pareil,
qui sont définies, qui sont pas dont le champ d'action est pas défini de manière ferme en fait. Et t'as la même chose dans Bloodlust qu'on a vu aussi, ou dans tous les autres jeux avec des traits.
Mais voilà, donc moi en fait, mon bilan sur ce jeu-là, c'est que je trouve que c'est un système qui est très intéressant surtout quand vous avez des joueurs qui sont vraiment pas fans de règles à la table, et dans les cas où vous avez du jeu collaboratif, et je vous dis, moi les jeux que je vois automatiquement, c'est Cyberpunk, Shadowrun, du contemporain, évidemment comme Leverage, mais voilà, ça va être aussi donc du Nightcrawler et autres. Ce qui est important, c'est comme... Moi, parce qu'on maîtrisait A2MJ et on venait tous les deux de Cyberpunk pur et dur, mais moi je voulais vraiment pas jouer Cyberpunk. Et lui, son premier réflexe, il était habitué à faire des PNJ, tout ça. Il me dit, ouais, mais on fait comment pour l'équipement? J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Les assets, ils vont nous les sortir sur le moment. Ils vont me dire, voilà, je dépense un point d'intrigue. Bah ouais, j'ai mon machin truc, mon super fusil mitrailleur machin, s'ils veulent se faire ce délire là. Et il me le sort de sous la manche. Et pour les PNJ, c'est pareil. Je veux dire, t'arrives et tu fais, et hop, un asset D6. Et voilà, fait régler. Et si tu. Pareil, quand tu dépenses plusieurs points d'intrigue, ça, pour 2 points, ça passe à D8, 3 points, ça passe à D10, et ainsi de suite. Donc, tu veux lui faire sortir le gros...
La méga Gatling Gun.
Voilà. Si c'est pour de l'arme ou si la super méga console de la mort qui tue, voilà. Donc, tout est possible. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête avec des règles dans tous les sens et à devoir passer un temps énorme à prévoir tous les mecs en face, tous les machins. Non, on les fait à la volée.
Ça, c'est vrai que pour le MJ, c'est aussi... vachement reposant.
Et puis tu fais des combats cinématiques si tu veux, tu fais des scènes sociales cinématiques, tu fais comme tu le sens, quoi.
Alors deux choses, un certain Lyonnais que je nommerai pas, qu'on appellera Monsieur Granularité, il se reconnaîtra.
Granularité.
Qui m'a beaucoup parlé des jeux Cortex en général et de Leverage en particulier. Me disait que d'une part, ce qui était intéressant, c'est que les parties pouvaient être très longues, comme tu disais sur un week-end, mais que lui, il avait fait plusieurs parties qui duraient une heure même pas.
Tout à fait, une heure, deux heures, trois heures.
Voilà, c'était très intéressant de pouvoir moduler comme ça. L'autre chose qu'il me disait, alors ça, c'est plus une question parce que je ne sais pas, lui, il me disait ce qui est que c'était raccord avec la série dans le sens où les joueurs gagnent de toute façon, ils arrivent à faire le job.
Ah oui.
Et en fait, c'est toujours le côté flashback, genre même s'il y a un moment où ils se retrouvent face aux méchants et que t'as l'impression qu'ils ont complètement foiré, c'est là que t'as le flashback qui explique tout et tout. Bien sûr, tu confirmes que c'est vraiment.
Ouais, tout à fait. En fait, le principe de base, c'est ça. C'est ils sont super bons dans leur domaine, il va leur arriver des misères. Le but du jeu, c'est pas de mettre en scène une mort, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est les complications qui va se passer pendant le scénario.
D'accord.
Et c'est ça vraiment l'intérêt du jeu, de la série, en l'occurrence, la série de l'Everest. On sait qu'ils vont gagner à la fin. On sait pas comment ça va arriver. On sait que parfois il y a des épisodes qui se passent sur deux épisodes et ils sont plus bactères, ils vont se retrouver en tôle ou je ne sais quoi. Mais ils vont s'en sortir. Et ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir qu'ils vont s'en sortir, c'est par quelles épreuves ils vont passer.
Ouais.
Donc c'est vraiment le principe de la dramaturgie, c'est voir qu'est-ce qu'ils ont traversé comme comme truc et pas. Ouais, j'utilise des grands mots pour une série râle et pâquerette, mais excusez-moi. Mais non, c'est vraiment ça. Donc oui, le but du jeu, c'est pas de les voir mourir. Le but du jeu, c'est qu'ils s'éclatent. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu très pratique pour jouer en semaine. Vous faites un 19h minuit, tranquille. Hein.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il risque en fait. Qu'est-ce que ton personnage risque? C'est-à-dire quel frisson tu as en fait? Est-ce que tu as dit effectivement le but du jeu c'est pas de mettre en scène une mort, mais est-ce qu'il y a quelque chose de définitif ou de semi-définitif ou de chiant? Est-ce que ton personnage par exemple peut gagner une distinction ou un truc négatif permanent s'il rate? Ouais, bêtement manchot, j'en sais rien. Moi, il se fait couper la main par le méchant avec son katana. Enfin,
rien ne t'en empêche. Je dirais que les complications, elles sont pas forcément. En fait, les complications ou les opportunités, le MJ est pas obligé de les utiliser sur l'instant.
D'accord.
Je m'explique. Voilà, il y a cette scène, cette fameuse scène où on est face à face. J'ai le pistolet, il me désarme, il me maîtrise et tout ça. Et je vais dire une bêtise. Il sait pas qu'en faisant ça, il a déclenché une alarme. Et l'alarme, c'est pas lui qui va la subir. C'est machin qui va la subir trois scènes plus tard.
D'accord.
Et il va arriver, il va découvrir. Et là, on va pouvoir, pourquoi pas, mettre au point un flashback ou quelque chose pour pouvoir mettre en scène la chose. Alors, c'est vrai que je raisonne plus au niveau du scénario en lui-même.
Ouais.
Mais rien ne t'empêche de pouvoir, sur la longueur, essayer de monter les choses. Le petit scénario, le premier puis le deuxième, ils vont faire deux missions qui ont l'air complètement palliées, la troisième, la quatrième, et puis soudainement, ils vont se rendre compte que toutes les missions ont été liées, il y a un fil rouge réel, et chaque action qu'ils ont eue au fur et à mesure ont eu des conséquences, et ils vont se retrouver à, c'est l'autre qui va avoir sa base arrière qui va être complètement ramassée, qui va y avoir, je sais pas, sa sœur qui va être attrapée, on a quand même les ressorts qui sont, mais ça sera plus du ressort dramatique dans le sens par rapport à ce qui se passe dans leur vie, que réellement se dire est-ce que ça a vraiment un intérêt qu'il devienne manchot, tu vois le gars?
Bah en fait l'idée
alors
c'est
qu'il devienne alcoolique parce que il a atteint le fond à cause de tout ce qui lui est arrivé et des conneries qu'il a fait.
Dans la série Walking Dead, il y en a un qui se retrouve manchot clairement dramatiquement.
Oui.
franchement, c'est un vrai impact.
Oui, mais c'est un vrai impact dans un univers qui est un univers post-apo. Oui, post-apo. Et dans un univers où pas avoir un bras, t'es vraiment vraiment dans la merde.
Mais après je pense que
c'est pas juste pour faire chier le joueur. Tu vois, c'est que ça a vraiment impact.
Je pense qu'au niveau de ce que tu disais, au niveau des conséquences, faut voir aussi que d'après ce que tu nous dis sur la série, c'est aussi quand même une série qui est à la base plutôt fun. Et donc les conséquences, oui, elles peuvent être dramatiques, narratives, mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trop d'intérêt à ce que, par exemple, le type se fasse. C'est-à-dire s'il se fait kidnapper sa sœur, l'intérêt c'est qu'il aille la retrouver. C'est pas qu'elle se fasse buter et qu'ensuite il passe 6 scénarios.
Le fait que t'aies pas d'enjeu dramatique direct fort comme la mort d'un perso dans 99% des autres jeux de rôle.
Tu peux le faire.
Non, tu peux le faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, effectivement, c'est pas le focus du truc.
Non, c'est pas le focus.
Si tu te fais enlever ta sœur, l'idée, c'est pas de dire, bon, bah, je vais plutôt aller m'acheter des bières et puis on verra demain. qu'est-ce qui l'incite finalement à y aller tout de suite, tu vois, à part le maître de jeu qui fait mais il va.
C'est le contrat social.
Non, parce que là, à ce moment-là, ce que tu ferais plutôt, c'est dans l'idée, dans l'univers de l'Everage, ça va être, ok, dans un premier temps, il va plus avoir de nouvelles de sa sœur, dans un premier temps, il va y avoir, et il va apprendre les choses et il va se rendre compte que son château de cartes peut s'effondrer. Et il a pas vu les choses venir parce que il a merdé à différents endroits en croyant qu'il avait bien fait parce qu'après tout ils ont réussi leur mission. Et là il va y avoir, tu vas essayer de créer un climax et quelque chose qui va avoir des proportions sur l'ensemble du groupe par la merde que lui il a faite sans le savoir. C'est des conséquences sur l'ensemble.
Je me demande comment sont structurés les scénarios pour ce type de jeu.
Je te l'ai dit, la structure en 5 actes. Je te le refais. Donc, pour début de mission.
C'est moi qui ai raté.
Non, mais vas-y, je t'en prie. Je veux bien réexpliquer, j'ai pas de problème avec ça. On a tous droit à notre sens.
Alors, vas-y, refais-le. Je devais pas être très attentif.
Dans la série, en fait, ça se passe toujours avec le même principe. On va découvrir qui est le client. Et quelle galère lui est arrivée? Une méga corpo qui lui a s'approprié ses brevets et qui va en faire quelque chose d'horrible alors que lui voulait faire disparaître. Bon, il va voir l'équipe, notre agence touristique locale. Il va les voir, ils vont expliquer, ils vont enquêter rapidement. Ils ont récupéré, le pirate informatique a récupéré une somme d'informations hallucinantes sur le truc. Voilà, ils montent un premier plan. ils commencent à mettre en déployer le premier plan. Il y a une première complication qui arrive. Ils arrivent à aller venir. Et une deuxième complication beaucoup plus costaud, qui est généralement un retournement important. Et après, on arrive au dénouement parce qu'ils arrivent à clore et à conclure. Et à, tout se passe bien. Voilà. Globalement, ça se passe toujours très bien. À la fin, ils arrivent toujours à boucler. Sauf qu'au fur et à mesure des saisons et des lignes rouges qu'il y a, tu te rends compte qu'en effet, il y a des liens, il y a des choses. Et que là, ils auraient peut-être mieux fait de pas réussir. Parce que des gens qui... Il y aura des conséquences.
Mais justement, je veux dire, ces liens, ces arcs narratifs qui sont plutôt sur le long terme, il faut qu'ils soient amenés petit à petit. Il faut que le scénario soit bien prévu de telle façon à ce que les...
Alors, je pense que moi, pour moi, et je raisonne pas qu'elle est vraie, je raisonne dans n'importe quel jeu. Moi, quand je monte une campagne, je crée un fil rouge tout de suite. J'essaie d'introduire un élément, deux éléments, je vois comment les joueurs réagissent, j'adapte ma ligne rouge en conséquence, parce que je vois que le truc que j'avais prévu, tu vois, typiquement Octolus, un urbain médiéval, je monte tout un ensemble d'intrigues, 3, 4 intrigues différentes qui sont parallèles des scénarios, et puis je me dis voilà, et puis je vois sur quoi ils
laquelle,
sont ouais. laquelle tire une corde ou tire une corde sur plusieurs, ça laisse, et à partir de là je développe. Mais cette ligne rouge au début, les 3 premiers scénarios, pour moi, si on parle de 3 sessions, c'est je prends mes marques, tout le monde prend ses marques, on prend la mesure des gens et on voit ce qui se passe par rapport à la personnage. Mais pour moi, ça peut pas être, la personne qui se dit j'écris ma campagne dès le début et je la fais jouer, il a aucune chance qu'il pourra la jouer telle qu'elle est écrite. De la même façon, quand il lit une campagne publiée, il y a aucune chance qu'il puisse la jouer comme ça. Elle sera chiante.
À moins d'être d'une rigidité telle que justement voilà. Ce sera très chiant.
Ça veut dire de pas être à l'écoute de tes joueurs, donc ouais. Donc c'est constat d'échec et t'iras pas au bout de la campagne.
À mon sens là, ce que veut savoir Cobal, enfin à mon avis le truc, c'est que quand tu définis ta campagne pour les vrais joueurs, on va dire tes premiers scénarios, tu définis un cadre. Ouais. Avec des éléments à jeter, et en fait la richesse du jeu ou du système de jeu fait que la manière dont ils y arrivent finalement, c'est-à-dire que le contenu des différentes scènes est complètement laissé à la main des joueurs.
Tout à fait.
Toi
ça,
en tant que MJ, c'est intéressant parce que la partie c'est ce qui se passe là, mais d'un autre côté ça t'intéresse moins, dans le sens où de toute manière tes éléments à toi, ils arrivent tu vois, par les bandes, et tu vas les inclure dans finalement un ensemble de scènes qui va être fait par les joueurs.
Autogéré.
Exactement.
À l'inverse, si tu veux, d'autres.
Tu rejettes une graine et ça pousse. Quoi.
D'autres jeux, c'est vrai que dans le bouquin, il t'explique vraiment beaucoup de choses pour justement construire tout ça et donner du relief à tes clients, surtout à tes cibles, aux personnages secondaires, et voir comment tu peux monter les choses. Donc, il t'explique le monde criminel, grosso modo, qu'est-ce que c'est d'être un criminel, les différents lieux, les lieux importants, pour pouvoir les construire toi-même. Et donc, dans cette boîte à outils, d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle dans le livre de base, t'as la boîte à outils, et après, t'as le monde criminel. Et dedans, il t'essaie de t'expliquer un petit peu comment te donner les tenants, les aboutissants, comment faire. Et avant ça, il t'avait déjà expliqué, grosso modo, comment mettre en scène ce type de ce qu'on appelle le heist. Ouais. Et ils l'ont décortiqué point par point, t'expliquer les différents types d'arnaques qui existent, de machin, de trucs. D'accord. Et donc, du coup, si tu veux, quand tu lis le bouquin pour faire du leverage, t'as tout en main. Ou du Ocean's Eleven, t'as tout en main pour pouvoir le faire. Et t'as pas besoin de te poser de questions existentielles et lire 25 bouquins. Il t'explique et t'as vraiment, à partir de là, tu peux partir comme tu veux. Je pense que je l'ai pas lu Smallville, mais je te vois.
J'ai pas le droit
d'en
parler.
J'imagine que c'est un peu dans le principe de la relation. Il t'aide.
Bah oui, grosso modo, c'est la même chose. Bah, après, je ferai peut-être une critique de Smallville plus détaillée dans un
jour. Faudrait,
avec grand plaisir.
Bah voilà, au prochain numéro. Mais bien sûr, tu retrouves beaucoup de choses. Smallville, pour le coup, ce qu'il y a de commun, c'est le fait que tu peux. Alors, il y a pas l'idée de fil rouge au départ, mais tu construis vraiment avec les joueurs. Ouais. Pour parler très rapidement, pour faire un aparté là-dessus,
sur l'univers et les relations
Smallville,
entre les personnages.
Voilà, ce qui est le plus important à la base, c'est la fameuse relation map, c'est-à-dire que la première séance, les joueurs et le MJ se mettent autour de la table et on fait la création de perso où tu mets donc des caractéristiques chiffrées sur ta feuille, mais en même temps, à chaque fois que tu rajoutes un point de création, si tu veux, tu rajoutes un truc sur cette map qui peut être un lieu, qui peut être un personnage, un truc comme ça. Et au final, tu construis comme ça. Alors voilà, moi, mon personnage, il connaît tel mec, il a telle relation avec lui. Ce PNJ-là, c'est mon ennemi, toi, c'est ton meilleur ami, machin. Et en fait, au final, le MJ, du coup, à la fin, il a cette carte.
Et il peut faire son scénario.
Et c'est un moyen, en fait, pour les joueurs de dire, voilà
ce qu'on veut.
T'as tout ça, voilà ce qu'on veut. t'as déjà des, en général des graines d'intrigue, genre voilà, machin est rival de truc et tout. Donc pour le MJ, c'est un vrai bonheur parce que t'as de quoi faire une voire deux campagnes juste avec la, la relation map en, et en plus tu sais que c'est ce que les joueurs veulent.
Bah voilà, donc, ce qui est le cas de, d'aucun jeu quasiment, parce que c'est vrai que la plupart de, quoi, non, dans les jeux narratifs c'est pas le cas, mais dans beaucoup beaucoup de jeux, moi ce que je trouve en tant que MJ, la difficulté souvent, c'est que tes joueurs ne veulent jamais te dire exactement ce qu'ils veulent. Alors toi tu dois sans cesse interpréter, sans
ouais.
cesse
ouais.
Et éventuellement tu leur poses des questions mais ils te répondent rarement, clairement, même si tu leur dis bah tiens je te donne 3
les
adjectifs,
les joueurs c'est vraiment
c'est
des
enculés, je te donne 10 adjectifs notre entre 1 et 5 t'es 5 préférés, ils te répondront jamais, donc tu sauras pas ce qu'ils veulent.
D'un autre côté, même en tant que joueur, moi j'aime pas répondre aux MJ.
Non mais on est des salauds de toute façon, on se plaint, mais on se plaint
bien
en tant que MJ, on est des
dans,
salauds
de l'autre côté, voilà,
et donc on est entouré de salauds et on a nous-mêmes un salaud, et donc voilà. Et l'avantage dans Smallville, l'avantage dans Smallville, c'est que justement
ouais, tu les forces,
les règles forcent à donner
ouais,
en fait, les clés,
ouais, tu les chopes par la bande quoi,
voilà, c'est ça. C'est ça. Vous voulez jouer à Smallville, bah vous avez pas le choix les gars, au boulot hein.
Et c'est vrai que ce système de la relation map, j'ai depuis testé d'ailleurs
notre partie
voilà
de...
avec une personne à la table, on a commencé une campagne de Hollywood et avec les règles d'Hollywood, mais en même temps qu'on a créé
avec
le perso, on a fait une relation map. Ouais. Et du coup, c'est-à-dire que tu peux prendre le principe de relation map
pour n'importe
sans,
quel jeu.
Voilà, sans prendre le système
oui.
de règles de
Smallville. Est-ce que les joueurs vont accepter de la faire ? C'est ça le truc. Alors que l'avantage de Smallville, c'est
évident.
Que le système te
l'oblige. On a dû les pousser un petit peu.
Voilà.
Mais non, en fait, moi j'ai trouvé.
Cobalt, tu dois reconnaître que ça marche bien.
C'est vachement sympa. C'est très riche.
Oui, non, mais
on peut déduire à peu près. On sait que son personnage pense rien qu'en regardant le schéma. On se dit vu sa relation avec sa sœur et sa relation avec son employeur, il ne peut que penser comme ça.
C'est ça.
Ça oriente vachement le roleplay.
Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est voilà, faites tout jouer une partie de Smallville et après vous pourrez utiliser la relation map pour tous les vos autres jeux.
En fait, on parle beaucoup de Smallville depuis un certain temps parce que c'est le premier qui a mis
hype
en forme.
Oui.
Non, c'est pas que ça hype. C'est pas
non, c'est qu'il a mis en forme
Swag,
des principes.
En forme quelque chose.
Oui, des principes qui
étaient pratiqués par un certain nombre de
personnes. Qui étaient pratiqués, en tout cas, vraiment qui est super cadré maintenant. Et maintenant, on le prend comme exemple. Donc on dit Smallville parce qu'il a eu la chance et l'intérêt.
Oui, mais en fait.
De faire ce jeu. Mais en même temps, le principe, le concept qu'il y a dedans, il est exportable, comme tu l'as dit, partout.
Bien sûr.
Je vous rappelle bêtement, et le sujet qui n'était pas basé sur les joueurs, mais vous prenez Chicago by Night, les tables de relations, avant, il y avait eu aussi.
Warhammer,
ce que je veux dire, c'est pas nouveau du tout, mais c'est vrai, ce qui est nouveau, c'est de la solution. Moi, je reste convaincu que c'est la bonne solution.
C'est l'avantage de systématiser.
C'est la bonne solution parce que le principe de base, c'est que souvent les MJ et de la première heure. Et les vieux routards étaient habitués à faire leur scénario et les joueurs jouaient le scénario qu'ils avaient prévu. Alors que, et y en avait qui partaient au bout d'un moment, qui arrêtaient les campagnes. Pourquoi ? Parce que ça s'essoufflait. Pourquoi ? Deux raisons. La première, c'est parce qu'ils avaient fait dire qu'ils n'avaient pas forcément ce qu'ils voulaient. Donc, et par ailleurs, il peut y avoir aussi des problèmes de rythme. Les campagnes typiquement qui durent sur des années, il y a toujours des joueurs, des dommages collatéraux en cours de route, et les gens s'épuisent parce qu'il y a un moment, ils se font chier.
Et les personnages ne sont pas adaptés à la campagne dans laquelle ils vont jouer.
Le MJ a prévu une campagne trop longue et il veut aller au bout, et les joueurs, eux, ils en ont marre, ou à l'inverse, les joueurs veulent continuer, mais lui, il a plus d'inspiration, ça le fait suer et compagnie. Il y a les deux cas. Je pense que c'est pour ça. Alors après, c'est encore une fois mon opinion et au point où j'en suis aujourd'hui. Si je me dis, moi, des campagnes qui durent sur un trimestre ou 6 mois, pour moi, je trouve que c'est très intéressant parce que t'as le temps et il faut le prévoir à l'avance. C'est-à-dire, tu dis pas, voilà ma ligne rouge, je vais l'étaler sur 3 actes et puis au final, tu te retrouves 10 ans plus tard. Ah, j'en suis quoi à l'acte 2 ?
Ouais, c'est
non,
ça.
Non, te dire, voilà, j'ai une campagne, c'est X scénario et. Dans un an au plus tard ou dans 6 mois, c'est fini.
On a terminé,
et après on passe à autre chose.
Et en plus, ça rejoint le côté, c'est que tous ces jeux de rôle là du système Cortex sont adaptés de séries télé, et donc c'est vraiment le principe des séries, c'est-à-dire que tu te dis bon je vais faire une saison, donc au bout de 10 épisodes, 10 scénars, t'as un arc narratif qui est plus ou moins conclu.
Et après tu changes d'acteur.
Et après tu dis aux joueurs bon si ça vous intéresse, on fait une deuxième saison, sinon on passe à autre chose.
Mais quelque part c'est ni plus ni moins que de l'alibi, je pense. Les auteurs qui sont derrière le jeu à chaque fois, c'est des gens genre chez Evil Hat ou d'autres, mais souvent c'est les gars d'Evil Hat maintenant qui sont avec Margaret Weiss Productions. Je pense que Margaret Weiss, pour pouvoir faire vendre leur jeu, ils prennent des grosses licences et eux ils se disent putain, mais rien de tel que les séries parce qu'on a l'excuse toute trouvée pour appliquer notre méthode qui pour eux est la méthode qui marche et celle à la quoi ils croient. Et j'adhère vachement à leur système. Et après, ils ont pris donc Battlestar Galactica est un cas à part, mais en tout cas pour Smallville et Leverage, c'est évident que c'est ça. Et Marvel d'ailleurs,
oui. Dont on avait parlé
la série,
fois.
Mais il y a eu les films, et puis surtout il y a les comics qui par définition sont de la série. Je trouve qu'ils ont trouvé l'alibi parfait. Ils ont trouvé la bonne société pour faire le bon truc.
Michael, alors pour conclure sur Leverage, hein, qu'est-ce que tu pourrais en dire?
Moi, j'en dirais que c'est un jeu qui vaut vraiment le détour. Je pense que les gens qui ont une table de collaboratifs, qui veulent faire une campagne urbaine médiévale, une campagne urbaine moderne, une campagne urbaine futuriste,
et qui lisent l'anglais.
Oui, qui lisent l'anglais. Mais bon, de toute façon, je pense que si ça se traduisait en français, ça se vendrait. Il n'y a pas suffisamment de clients en France pour acheter ça.
Faudrait un Kickstarter.
Ouais, voilà, faudrait un Kickstarter.
Et
mais
puis un jeu qui s'appelle Levier, c'est pas super.
Voilà, Non, ils ont gardé le titre. Je crois qu'en français, ils l'ont gardé Leverage d'ailleurs. D'accord. Parce que forcément, ça ferait mieux. Non, moi, je pense que c'est vraiment un très bon jeu qui vaut le détour. De la même façon que Smallville, attention mon étagère, et que j'ai vraiment envie de le lire juste pour cette histoire de Relation Map.
Et la question subsidiaire, c'est donc, tu disais urbain médiéval, donc est-ce qu'on peut faire jouer Westburg avec les règles de Leverage
Avant que j'apprenne que Westburg se fasse, qu'elle allait se faire en jeu de rôle. Moi, pour moi, Leverage, clairement, je l'utiliserais pour du Westburg. Je l'utiliserais, si j'ai fait une longue campagne de Ptolus. Si j'avais su ça avant, j'aurais fait mon Ptolus avec Leverage.
À noter que dans les règles de Westburg, il y a plein de choses que j'ai oubliées tout à l'heure. Il y a notamment le fait que tu peux, enfin, que tu as des points qui circulent entre le MJ et les joueurs et qui servent, par exemple, à dire, ton personnage qui a le trait trop bon, trop con, il y a quelqu'un qui lui propose un truc qui est visiblement extrêmement douteux, mais vu ton trait, voilà. si tu acceptes cette situation, je te file un point. Voilà. Et après, il pourra se servir.
Je me rappelle même plus d'ailleurs de cette monnaie qui circule.
C'est le nom m'échappe aussi. Et ces points, en fait, ils servent après aux joueurs soit pour relancer des dés, soit pour augmenter la qualité de sa réussite.
D'accord.
C'est de la même façon, c'est un peu le point d'intrigue ou le point d'héroïsme, quoi. La monnaie qui circule, ouais, c'est de côté de la table et qui est assez intéressante.
Ou le DK, ou ce qu'on veut.
Voilà, exactement. En tout cas, voilà, Leverage, c'est bon, mangez-en et voilà, ou pas.
D'accord. Bon, et ben merci Michael. Nous avons enfin terminé cette émission.
Oh, dis donc, mais c'est fou. Ça, dans alors, les temps et tout.
Dans les temps, incroyable. Presque, quasiment.
Je pense que l'absence de Ponche a joué pour beaucoup.
Ouais, mais d'un autre côté, la présence de Ponche aurait rajouté, je pense.
Bon, et bien, ma foi, merci à tous d'avoir participé à cette émission.
Merci à toi.
Avec plaisir.
Et quant à vous, chers auditeurs, je vous dis bien rendez-vous le mois prochain pour la prochaine, donc la numéro 19. Merci, salut.
Au revoir.
Salut.